Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés pour cette émission de football. Avec nous aujourd'hui, Jason, comment ça va Jason?
Ça va et toi Eladj?
Ça va, bonne semaine de football?
Ça va, ça a été un peu mitigé mais bon ça va.
Un peu mitigé mais en tout cas on a eu du beau jeu et du beau spectacle. Lucas, comment ça va Lucas?
Ça va et toi?
T'es pas d'humeur avec moi ou bien c'est...
Non, moi je suis très de bonne humeur, j'ai vu jouer le Red Star cette semaine qui a gagné en plus aussi de moi. Que de la bonne humeur.
Que de la bonne humeur. On espère en tout cas que de la bonne humeur. Ça a été difficile côté phocéen, mais ça s'est quand même imposé. Donc logiquement, Maxence, je pense que tu es satisfait des 3 points.
Satisfait des 3 points et puis satisfait de ce qu'ont fait les concurrents au podium. Donc c'est plutôt une bonne opération ce week-end. Après, plus globalement sur la semaine de foot et puis la saison de foot, je sais pas. Je suis un peu mitigé par rapport à ce qu'on voit dans les différents championnats. Mais bon, on y reviendra.
On y reviendra bien évidemment. En tout cas, dans l'ensemble, bonne semaine de football.
Oui, on va dire d'un point de vue résultat, allez, bonne semaine, je te l'accorde.
Bonne semaine de football. Et là, j'ai même pas besoin de poser la question si t'as passé une bonne semaine de football. Je suppose que tu as passé une bonne semaine de football. Cheikh, comment ça va?
Très bien, et toi, Eladj?
Ça va, bonne semaine de football.
Hein. Ouais, bonne semaine, tu connais. Tant que il y a des beaux buts, il y a du spectacle, ça va.
Là, ensemble, ça va. Le Real Madrid qui ont simplement...
Voilà, qui ont récidivé, qui nous ont fourni des spectacles. Il n'y a pas que le Real, il y a le Barcelone aussi. Après, il y a le match de Leverkusen. Il y a pas mal de beaux matchs, en tout cas. La semaine a été remplie.
Ah, le match le plus beau quand même, je pense que... Là, t'as cité le mauvais match à côté, celui du Barça. On va en reparler. Mais bon, on va en reparler, celui du Barça. Je ne pense pas trop, mais on va en reparler en tout cas. On va commencer par la Ligue 1 directement. La Ligue 1, Marseille, qui se sont imposés 1-0. On a pu voir, hein, c'était un Marseille assez poussif. On va retenir que les 3 points, hein, comme on le disait juste avant. Le Paris Saint-Germain, qui n'ont pas joué, qui joueront face à Nantes la semaine d'après, puisque le match a été décalé. Et on a pu voir Lyon, qui ont été tenus en échec par le Havre. Hein. Les Lyonnais, qui ont joué face à une équipe qui a été réduite à 10 au bout de la 60e minute, il me semble, 58e minute à peu près. Et Lyon n'ont pas réussi à ouvrir le score, du moins en tout cas à gagner ce match-là. Lens qui se sont inclinés aussi face à Lorient 2-1 et reste à 1 point du PSG qui compte un match en retard. Nice s'impose 2-0 à Angers, ça permet à Nice tout simplement de prendre une bouffée d'air fraîche sur la zone de relégation. Strasbourg tenu en échec aussi encore une fois 0-0 face à Paris FC. Strasbourg, c'est peut-être la Coupe à l'Europe. Les deux, ils n'arrivent pas trop à enchaîner sur les deux tableaux. C'est ce qui devient compliqué un peu pour Strasbourg.
Ah, pour Strasbourg et Lyon, oui, c'est très 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 difficile parce qu'ils ont déjà... Bon, Strasbourg a un effectif un peu plus large que Lyon, mais le banc n'est pas non plus à la hauteur des deux compétitions. Donc c'est un peu compliqué. Il y avait un moment où ils ont fait l'impasse un peu sur le championnat. Donc ils faisaient plus jouer les titulaires en Europa League. Mais quand ça a commencé à être sérieux en championnat et qu'ils associent la même composition dans les deux compètes, et ben là, ça devient compliqué.
Et ils ont la Coupe de France aussi. Ouais. Moi, je pense que Strasbourg, c'est une équipe qui va viser les coupes sur cette fin de saison, que ce soit la conférence ou la Coupe de France. Et en gagner une des deux, ce serait extraordinaire pour ce club. Donc voilà, je pense que c'est une équipe de coups. C'est très dur d'aller jouer là-bas. Contre les gros, ils l'ont prouvé. Ça a été très bien contre Paris, ça a été bien contre l'OM aussi, ça a été très bien contre Lyon. Donc c'est une équipe pour la gratter un peu pour les gros de ce championnat, mais ils n'ont pas la régularité sur une saison entière pour faire top 4.
En tout cas, pour l'instant, ça commence à être difficile de jouer sur les trois tableaux directement. En tout cas, ça perd des points importants en Ligue 1 contre des équipes assez à portée de main, en tout cas pour cette équipe de Strasbourg. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation des Marseillais, Cheikh?
Bon, dans l'ensemble, comme tu viens de le dire, Marseille est un peu poussif, mais l'objectif c'était de gagner. Que ça pourrait au moins faire du bien à la troupe d'Abi Bey, pour que moi, là, engranger des points et pourquoi pas essayer d'aller recoller le classement, essayer de mettre la pression si, en fait, sur le peloton des têtes. Déjà, ben, moi, je ne suis pas satisfait de cette équipe parce que je pense qu'ils ont les qualités pour faire plus, le potentiel. Après, bon, dans l'ensemble du match, comme on dit, chaque match a son approche, chaque match a sa physionomie. je crois que le coach, voilà, il a fait ce qu'il voulait. Il a fait ce qu'il pouvait aussi. Peut-être après, voilà, les joueurs, moi, je crois qu'ils sont un peu, je les ai sentis un peu les jambes, un peu, comment dire, un peu lourdes, un peu dégoûtées. Je n'ai pas vu, en fait, ce Marseille il y a 2 semaines, 3 semaines.
C'est les jambes ou c'est les têtes?
On peut dire les têtes, parce que voilà, comme on dit, après la tête aussi arrive à guider les jambes. Donc, à un moment donné,
après, il y a 2-3 semaines, c'était pire encore.
Ouais, il y a 2-3 semaines, c'était pire. Oui, mais après.
Mais là, ils ont été hyper poussifs parce qu'en fait, il y a 2-3 semaines, j'ai l'impression qu'ils arrivaient à rien. Là, sur ce match de ce week-end, on sentait les intentions. Ils ont essayé tout le match, mais ils ont été tellement.
C'est sur ça que je ne peux pas leur reprocher, moi. C'est ça, sûr.
Ils ont essayé.
L'envie, au moins, et le semblant de sérieux qu'il y a, parce qu'en 2 matchs contre des adversaires à ta portée, Toulouse. Et ce week-end contre Auxerre, t'encaisses aucun but. Et ça, c'est très très rare pour être souligné. Le nombre de matchs où l'OM a été. Quoi ?
Non, j'allais dire, t'encaisses aucun but, mais le but hors-jeu qu'ils prennent à la fin, il a été refusé pour très très peu, je crois. C'est vraiment.
Non, mais c'est sur le principe, c'est des coups du sort. Mais
il n'y avait pas de. Marseille, l'équipe, elle n'est pas sécurisée.
Ah non,
tu vois,
pas du tout.
On a fait un clean sheet parce qu'on est costaud derrière.
Il faut juste le retenir parce que ça donne de la confiance.
Exactement.
Mais c'est tout. Il n'y a rien à retenir au niveau de la prestation foot de ce qu'on a vu. Après, tu t'en sors parce que tu as des individualités qui sont sympas. Que ce soit. Là, c'est Gouiri qui te sort de la galère. Contre Lyon, c'est Aubame. Pechao qui est en ce moment très bon, lui, dans le marasme actuel.
Exactement.
Après, il y a tellement de matchs où l'OM sur cette saison a été au-dessus de son adversaire et
sans gagner
parce que les fameux buts à la fin, les fameux tournants de matchs que tu gérais mal, que ce soit en Ligue des Champions, en Ligue 1, etc. Et en fait, moi, ça me dit que c'est un peu un juste retour des choses où t'as aussi le droit d'être moche et de gagner des matchs. Et ça, c'est une saison qui peut changer et qui peut passer de échouer à réussi juste sur des matchs comme ça. Elle sera sauvée. Ouais, mais ça sera un cauchemar si c'est pas le cas, tu vois. Ce sera vraiment une catastrophe. Donc tu passes d'une saison moyenne, on va dire, moyenne sauvée, à une saison horrible, catastrophique. Donc la frontière, elle est mince parfois entre ces choses-là. Et moi, c'est ce que je reprochais aussi de pas pouvoir, enfin que l'OM n'était pas capable de faire par rapport aux concurrents. T'avais Lyon, t'avais Lens qui gagnaient des matchs sans être bons en fait. Lens, ils ont gagné un nombre de matchs 1-0 ou 2-1 sans être forcément très très bons. Et des matchs comme ils ont perdu là face à Lorient, ils en ont fait 10 cette année. Sauf qu'à chaque fois, ils perdaient pas. Il y avait toujours le petit truc. Le centre supplémentaire, voilà, exactement. Ça. Et ça, en fait, je le reprochais à l'OM parce que certes, tu peux pas être au top sur 34 matchs, mais il faut savoir prendre les points. Et là, c'est un miracle. Enfin, clairement, faut se le dire, il y avait rien. Surtout la première mi-temps, elle est catastrophique. C'est une des pires que j'ai vues, toute compétition confondue de la saison.
Moi, j'ai regardé la première mi-temps, honnêtement. J'ai regardé la première mi-temps.
Dur. T'as lâché ?
Ouais, j'ai lâché.
J'ai
lâché. J'ai jamais loupé, depuis le début de saison, j'ai loupé aucun match de Marseille, à part quand ils jouent contre des équipes en Coupe de France et ça gagne 7-0, 8-0. Au bout de 3 minutes, il y a déjà 3-4-0. Je quitte le match. Si c'est pas ça, tous les matchs de Ligue 1, je vais les suivre. Mais là, à la mi-temps, j'ai lâché. Non, à la mi-temps, ça ne m'intéressait plus. Tu vois, le sort du match ne m'intéressait plus. À la mi-temps, j'ai quitté.
Bah, comment ils vont relever, tu vois.
Et franchement, je ne vois pas où est-ce qu'ils pourront avoir
ce supplément d'âme.
Tout simplement, cette confiance même, en se disant, on fait un clean sheet. Parce que pour moi, avoir cette confiance, c'est ok, on en prend un, mais on en met 4 derrière. Moi, je préfère avoir ça.
Mais, oui, mais ça, c'était l'esprit de Dezerbi. Voilà. Et à chaque fois, on les tapait dessus aussi parce qu'on disait, ouais, mais il n'arrive pas à sécuriser. Quand il mène 3-1, ça finit 3-3, c'est pas normal. Et toutes ces histoires-là, l'OM a eu.
À Dezerbi, ça lui est arrivé sur la fin.
Pendant une bonne partie de la saison, tes meilleures attaques de Ligue 1 et encore deuxième meilleure attaque, pas très loin.
C'est pour
donc
ça
en fait,
que ça lui arrive.
Ça enquillait les buts. Mais c'est juste que derrière, c'était porte ouverte. Et moi, je retiens rien au niveau du jeu. C'est une catastrophe. En fait, il n'y a pas 3 passes. Et tu sens que le plan de Bay, c'est on va presser haut. Le contre-pressing, il faut qu'il soit là. On va, les gars, faites des efforts. Kondogbia, Højbjerg, vous courez, vous courez, vous courez. Timber, vous courez, vous courez, vous courez. Mais en fait, après ça, une fois que le ballon est dans les pieds, tu sais
y a plus
quoi
rien.
Faire.
Donne à Greenwood, créativité,
on va voir ce qu'il va faire. Donne à Pechao, on va voir ce qu'il va faire. Il n'y a pas 3 passes, il n'y a pas de circuit. Il n'y a rien qui est proposé. Et malheureusement, l'objectif de l'OM cette fin de saison, c'est de finir top 3. Et la seule manière d'y arriver. Enfin, pas la seule manière, mais la manière qu'Alibé va choisir pour y arriver, c'est celle-ci. C'est une équipe courageuse, une équipe qui va faire les efforts et prier pour que Greenwood, Gouiri, Pechao, Aubame soient dans un bon jour et qu'ils te mettent un ou deux buts. Mais ça va être ça et ça va.
Parce que quand ils avaient les ballons dans les pieds, ils mettaient des ballons longs à personne.
Ouais.
Et je disais, mais c'est quoi ça? Mais au bout d'un moment, une fois, deux fois, je te dis, bon, c'est le début du match. Mais quand c'est à longueur de temps,
c'est un jeu dépourvu en fait.
Mais en principe, quand tu utilises le jeu long, tu vises une personne ou une zone.
Une pointe fixe.
En fait, eux, ils envoyaient des ballons, mais il n'y avait pas d'appel. Et en fait, tu rendais la balle à l'adversaire.
Mais pas que dans ces cas de figure, ils ont réussi à rien créer. Quand tu avais un joueur qui commençait un petit peu à percuter, à avancer,
il allait tout seul.
Il n'avait aucune solution.
Ah ouais, il allait
donc
tout seul.
À chaque fois, soit il y a un contre et ils arrivaient un petit peu à le négocier, c'est une récupération haute, comme tu disais, ce qu'ils ont tenté. Là, ils arrivaient, notamment sur le but, à créer des actions Il y en a une que Greenwood rate aussi, qui celle qui passe à Gouiri. Donc il y a eu quelques actions. Mais quand Marseille a dû faire le jeu, c'était horrible. Ah, quand ils arrivaient dans les 30 derniers mètres et que Léo Serrois était en place, il n'y avait rien, il n'y avait aucun mouvement. Alors qu'on sentait qu'ils avaient envie d'essayer. C'est ça qui m'a fait de la peine, moi, sur ce match. C'est qu'on a senti une équipe volontaire, mais terriblement
limitée.
Les mecs,
ils ne se cachent pas, hein. Ils essayent. Hein. Mais après.
Ils essayent, mais parce que je pense que dans les têtes, ils sont tellement traumatisés, ils n'arrivent plus à jouer. Ils ont eu des consignes sûrement différentes de la part de Bay. Et donc, en fait, ils sont entre une philosophie qu'ils ont faite depuis un an et demi. Là, ils sont sur autre chose de beaucoup moins ambitieux au niveau du jeu. Et j'ai l'impression que, ouais, ils vont, comme tu dis, ils vont sauver les meubles et il n'y a plus que ça qui compte.
Et je pense que paradoxalement, les équipes de Bay, elles seront mieux contre les équipes un peu plus fortes. Contre Lille ce week-end, par exemple.
Mais les équipes qui bloquent pas, ça marchera pas.
Une équipe
pas.
Qui va jouer et qui va te laisser des espaces pour Peschau, pour Greenwood, comme on a vu face à Lyon, en fait. Il y avait, c'était une équipe, c'était 50-50, il y avait des occasions de deux côtés, mais t'avais quand même des espaces pour t'exprimer. Là, Auxerre te laisse pas d'espace, et en fait, si tu déploies pas un peu de jeu, bah, t'es rapidement dans un sens interdit, quoi.
On va poursuivre, messieurs. Lyon, qui ont été poussifs aussi, mais qui n'ont pas réussi à gagner face au Havre, ça a été difficile.
Lyon, ça a été dans les deux sens, hein, parce qu'ils auraient pu perdre malgré tout, parce que le Havre, il se crée beaucoup d'occasions dans ce match.
Mais dès qu'il y a eu le 10 contre 11, il y a déjà eu une différence. Après.
Mais même à 10 contre 11, le Havre, ils se sont créés, il y a une frappe sur le poteau. Il y a quelques occasions quand même, même à 10 contre 11, parce que moi, j'ai trouvé même le Havre mieux à 10 qu'à 11.
Tu parles du poteau de Bouffal là, qui fait son côté.
Non, l'arrêt, ça, il y avait une autre frappe aussi qui tape le poteau.
Il y a une frappe petit côté là, quand il est sur la gauche.
Ouais, Bouffal, c'est Bouffal.
C'est une entrée de jeu et il a
Ils se sont créés plusieurs situations. Donc Lyon s'en sort plutôt bien quand même aussi.
T'es prêt à mettre ton maillot là, ou pas?
Moi, je
crois encore.
Moi, je connais pas ce pari. Mettez-moi au parfum.
Tu connais pas ce pari? Alors, ça s'est lancé il y a un petit moment où le pari c'était ouais, l'OM, la saison elle est finie, ça fera rien et tout. Bon, ok. Et son pari, c'est que Lyon finit devant l'OM. Et moi, je pense l'inverse. Et donc, le perdant du pari doit porter un maillot, soit lui de l'OM, soit moi du PSG.
Un maillot rival, ok.
Un maillot rival sur une émission au mois de mai.
Ouais, il nous fait un petit sourire.
Plus le resto.
Plus le resto après. Mais le problème, c'est que ce pari, il a été pris à plus 5, et là, il y a moins 2. Donc
du coup...
Mais moi, j'y crois encore.
Oui.
Bah, c'est bien fini
après.
Je peux
même doubler la mise encore.
Ah ouais,
bien sûr. Bah,
allons-y.
Mais bah, après, tout dépend.
Non, Lyon, en ce moment,
tout dépend le match contre le Celta Vigo. Si ça se prolonge. Lyon,
non,
il peut se perdre encore
pas,
des
non,
points.
Non, ça va pas se prolonger. Non,
et puis Lyon, attention.
Non, ça
attention,
va pas se prolonger.
Là, t'es sur 5 défaites d'affilée quand même.
Moi,
et tes prochains matchs en Ligue 1, c'est Monaco. Et derrière, à la rentrée, tu joues Paris.
Paris,
ça va commencer à être compliqué. Là, leur calendrier est derrière. Hein.
Ouais, mais moi, je pense que leur dernier run.
Après, faudrait le retour des blessés à Lyon, parce que là, ils se font attendre. Aussi. Fofana, ça fait un mois qu'il devrait être revenu. Ouais. Il n'est pas blessé. Nouama, il tarde à revenir aussi. Mangala, il est revenu un peu. Je crois qu'il s'est reblessé. C'est un peu compliqué.
Même quand ils vont revenir, à quel niveau ils vont revenir?
Et moi, c'est surtout le calendrier. Et quand je vois des équipes comme Monaco qui reviennent pleine balle derrière, ça me fait même peur pour Lyon pour le top 4. Je pense même qu'ils vont finir 5-6.
Marseille aussi, ils vont jouer Monaco.
Oui.
Marseille, il leur reste Monaco et Lille. Monaco et Lille.
Et Rennes aussi.
Et Lyon, il leur reste Lens, il leur reste Monaco, il leur reste Paris. C'est quand même plus costaud, je suis désolé.
Il manque Rennes aussi à Marseille.
Là, pour l'instant, potentiellement, ils passent en quart.
Oui.
Et qui devra jouer entre deux. Ils vont pas reporter le match. En tout cas, je pense pas.
Non, c'est Lens le match entre deux. C'est Lens le match entre les deux quarts de finale.
Tu vois, à chaque fois, le PSG perd tout le temps des points. Quand ils sortent de Ligue des Champions, ils en perdent tout le temps. Après un match de Ligue des Champions,
la différence, que là, cette année, il y a le titre à jouer quand même.
En Ligue 1 ?
Le titre, il n'est pas encore dans la poche à 100%.
Bien sûr, mais...
C'est ça, le petit...
Ici.
Non, pardon, et puis le...
Ils s'y mettront, mais là, ils sont déjà à 4 points d'avance.
Non, non, et puis là, sans parler du PSG, moi, c'est le Lyon...
Moi, c'est le Lyon
actuel qui m'inquiète, en fait. C'est le Lyon qui n'arrive pas à mettre en difficulté...
Moi, je pense qu'ils vont repartir, et moi, surtout...
Entre le PFC la semaine dernière...
Et moi, surtout, ce que je me dis, c'est que Marseille vont sombrer. C'est plus ça que je
Ah, mais Marseille va perdre des points.
Non, après, beaucoup de points.
Bah, il reste pas un peu
6 matchs.
Oui, mais même
c'est
sur les
3 victoires d'affilée quand même. Donc,
sur les 6 matchs, je suis sûr qu'ils en gagnent 3 max. Pas plus.
Ouais, bah ça, on verra.
Tu vois,
par contre, moi,
je
pense 3.
Je les vois pas gagner 3.
Ça te laisse quand même peut-être un peu
sur le podium. Ils ont 4 points d'avance.
Mais t'en perds.
Parce que t'as déjà 6 points d'avance.
T'es à 6 points sur le 5ème.
Non, ils en ont 2.
Non, 2 sur Lyon.
Ils en ont 2 de plus que Lyon.
Ouais, mais sur le 5ème, t'en as 6.
Sur le 5ème, t'es à 6 points.
Donc t'en gagnes 3, t'es en Ligue des Champions.
T'es dans le top 4 en tout cas.
Bah non.
Bah si.
Mais il reste 5 matchs.
Non, il reste 6.
Attends, il reste 6 matchs. Ok, sur les 6 matchs, faut que t'en gagnes 5.
Non.
Bah non.
Ça dépend ce qu'il
faut. Tu crois que derrière, ça va prendre
derrière,
tous les points.
Attends, non, mais officiellement. Non, mais officiellement.
Oui, mais non,
bah,
non,
mais là, t'en prends.
Oui, non, mais si, officiellement, oui, mais... si tu veux truquer, il t'en faut 5.
Oui, mais
il y a personne qui va faire. Bah oui, il y a personne qui va faire le perfect.
On verra bien.
Mais c'est impossible.
On verra bien.
Il se joue. Donc mathématiquement, c'est impossible.
Je vois Marseille être devant Lyon.
On verra bien.
Personne va faire perfect.
Je vois Marseille être devant Lyon parce que voilà, je sais pas, ouais, comme je me dis que Habib Bey, comme
là,
c'est un bon bricoleur.
Moi, je sens que ça va jouer jusqu'à la dernière journée.
C'est un bon bricoleur, donc il va essayer
Marseille,
de bricoler un truc.
Il va se faire égaliser à la 90.
Au moins de sauver la saison et tout ça. Bon. je le vois parce que là, Lyon, j'ai comme l'impression qu'ils sont en train d'être mal embarqués, peut-être avec le calendrier aussi et tout ça. Donc, et n'oublie pas aussi que l'Europa League, donc, est-ce qu'ils vont pouvoir prolonger les séries ? Là, ça va peut-être, on ne sait pas. S'ils doivent la prolonger en Europa League, ils vont forcément laisser des plumes en Ligue 1. Parce, que là,
parce qu'à mon avis, Europa League, ils vont passer.
Et à noter que Fonseca, il a beaucoup de mal.
Ouais, parce que t'as vu tous les, mais Vigo, tous les suspendus qu'ils ont.
Ouais, Vigo, il y a du monde qui n'est pas là.
Ingeza qui n'est pas là. Ingeza qui n'est pas là. Ça fait beaucoup.
Je suis d'accord, mais c'est dans le jeu qui leur ont fait du mal en Europa League. Peut-être qu'on en reparlera, je ne sais pas. Mais je trouve que le jeu leur a fait du mal. Donc moi, je ne parie pas du tout tout ce que j'ai sur une victoire de Lyon et une qualification.
Fonseca a un gros souci avec les fins de saison. Même à Lille, il faisait souvent des très belles saisons. Et sur les 3-4 dernières journées,
il terminait mal.
L'an dernier,
oui,
à United, il les bouffe tout seul.
Mais je me rappelle d'une 38e journée de Ligue 1 ou 34e peut-être à 3 avec Lille, quand Lille est sur le podium et doit faire avec des champions contre un 3 qui est déjà en Ligue 2 et ils arrivent à ne pas gagner. Et pour moi, Fonseca, il a un petit problème mental et on voit que sur les derniers matchs, il est de moins en moins serein. Lui qui dégageait beaucoup de sérénité sur les 6-8 premiers mois, même quand il était encore suspendu et tout, là, chaque fois qu'il perd, ah non, mais la meilleure équipe, elle a perdu. Nanana. Il a dit ça contre Marseille, il a dit ça contre Lens, contre le PFC. Il a aussi dit, oh là là, on méritait de gagner. C'était... Alors qu'il égalise quand même sur un pénalty à la
15e. Litigieux.
Et donc, en fait, moi, je trouve que cette communication-là, quand c'est une fois de temps en temps, pourquoi pas, mais quand ça devient trop fréquent et que trois fois en une semaine, tu sors « Ah, mon équipe, c'est la meilleure, on est trop fort, on n'est pas récompensé, ça va le faire », c'est que tu commences un peu à douter de...
Non, après Lyon, ça joue bien, mais le problème, c'est qu'ils ont un problème de finition.
Mais ça, c'est de moins en moins vrai, je trouve. C'est-à-dire que ça joue moins en moins bien. Contre le PFC, ça joue pas bien, tu vois.
Mais le PFC, t'as vu le bloc qu'ils ont mis.
Ils
jouent en transition, donc... Franchement, le PFC, toutes les équipes qui vont les jouer, t'as bien vu Strasbourg aussi.
Bien sûr.
Toutes les équipes qui vont les jouer, ça va être très, très, très compliqué. Mais parce qu'ils jouent un bloc compact, ils mettent que des mecs qui vont à la bagarre et après ils jouent en transition rapide.
C'est le lot de toutes les équipes qui jouent le podium. C'est-à-dire qu'en face, au début de saison, les petites équipes qui jouaient Lyon, elles se disaient, ah, Lyon, c'est en pleine crise, on peut aller faire un truc. Maintenant, quand tu joues Lyon, tu te dis, un nul, ça serait bien. Et donc, en fait, tu fais comme quand tu joues Lens, comme quand tu joues Marseille.
Ouais, tu fermes
et tu te dis, bah, on va voir. Et Lyon a de moins en moins les moyens
de trouver des solutions.
Ils ont beaucoup d'absents aussi, on l'a dit.
Ah, énormément.
Messieurs, nous allons poursuivre. Lorient qui sont imposés, hein, comme on disait, face à Lens, 2-1. Pas grand-chose à dire, hein. Lens qui ont joué leur football, mais qui sont tombés sur plus fort, parce que Lorient aussi, à domicile, c'est pas mal cette saison. Hein.
Surtout, ils sont sur une bonne dynamique, à part leur dernière défaite. Mais...
Buteur.
Ouais.
Et leur gardien, il enchaîne toujours des super matchs.
Ouais. Ouais. Et puis globalement, l'effectif qu'a créé Pantaloni, moi, j'y croyais pas. Enfin, parce que Pantaloni, c'est pas un coach que portait dans mon cœur. Je le voyais plutôt comme le coach qui fait descendre les équipes corses en Ligue 2 et qui les fait remonter, mais à base de grinta et de pas grand-chose d'autre. Mais en fait, il m'a donné complètement tort parce qu'il a prouvé qu'il savait très bien faire jouer son équipe.
Cette deuxième partie de saison, elle est impressionnante.
C'est parce qu'il a changé son football. Ouais. D'habitude, c'est une sorte de catenaccio. Lui, il met un 4-4-2.
Et là,
plat,
en fait, il donne les clés à des mecs qui savent jouer au ballon. Là, il arrive à gagner sans Pablo Pagis encore. C'est
tu vois Bambadieng qui revit.
Bambadieng qui revit. Pamo Meite, il fait revivre un mec. C'est exceptionnel.
Il avait quitté Marseille, il était au fond du trou. Et là,
même pendant un an à Lorient, il était au fond du saut derrière.
Pas, bien sûr,
il prenait des rouges à chaque fois qu'il jouait, des pénaux, des trucs. Et là, c'est assez dingue ce que fait Lorient. Et ouais, les jeux au Moustoir cette fin de saison, c'est pas un cadeau.
Rennes qui s'incline, qui sont stoppés net dans leur progression et qui s'incline face à Lille. Lille qui allait moins bien et là, qui prennent des points importants, en tout cas face à un concurrent direct. Donc, Lille revient à 5 points tout simplement de Marseille. Lille, eux, qui vont jouer face à Marseille week-end prochain. Voilà pour la Ligue 1. Strasbourg qui ont été tenus en échec 0-0 face au Paris FC. Comme on disait, hein, c'est difficile avec Strasbourg qui enchaîne sur tous les tableaux. Du coup, nous allons rappeler le classement. Le Paris Saint-Germain, je rappelle, qui n'ont pas joué et qui sont à 57 points devant Lens avec 56 points. Marseille 3e avec 49 points devant Lyon à 47 points. Lille 5e avec 44 points. Monaco 43 et Rennes 43 aussi. Et là, ça se détache un peu de Strasbourg. Hein. Il y a 6 points qui les séparent les deux. Mais en tout cas, entre Monaco et Lille, 43-44, c'est assez
simple. Ça va se battre pour toutes les Coupes d'Europe. Quoi.
Ouais, ça va se battre. Dans le bas de tableau, ça commence à se décrocher aussi. Nice, qui sont imposés, du coup, ont 8 points de plus que Auxerre. Auxerre qui sont barragistes, hein, qui ont 2 points de plus que les Nantais, et les Nantais qui ont 4 points de plus que Metz. Ça commence à se dessiner vers le bas de tableau.
Ouais, et puis la défaite de Metz ce week-end, on le dit chaque week-end, hein, mais c'est vraiment une défaite d'équipe qui descend.
C'est horrible. Hein.
Quand t'égalises à la 89e et que t'en prends à la 96...
T'es mené 2-0 en première mi-temps, en quart d'heure de jeu, je crois, ils sont menés 2-0.
Là, c'est vraiment la défaite qui fait mal à la tête, tu te dis c'est fini. Mort, ouais. Et puis après, avoir l'effet Vaïd à Nantes, mais j'y crois pas.
Donc, après, tu vois que Nice s'est sauvé là aussi. Je pense que Wai a lui tout seul qui leur fait gagner ce match.
Je pense que derrière, ça bougera plus. C'est que Auxerre va faire les barrages et Auxerre mérite de ne pas être dans les deux derniers. Après, parce
Auxerre, ils sont un peu loin aussi. Ils gagnent même pas un match, ils prennent pas un point.
Ouais, mais je veux dire, ils sont sécurisés, à mon avis, sur le. Ils ont une petite marge par rapport à Nantes.
Ils ont deux points de plus.
Ils ont bien commencé aussi.
Ouais, mais deux points à ce niveau-là du classement, c'est énorme, hein, parce qu'ils gagnent pas beaucoup de matchs. Hein.
Ils n'arrivent même pas à arracher un nul. Toutes ces équipes, ils n'arrivent même
pas. Tous autant qu'ils sont gagnés un match, c'est un exploit. Donc.
Nantes. Bah, Auxerre, ils avaient mieux commencé, mais là, depuis 2026.
Nantes devront jouer contre Auxerre.
Ouais, ça va
être. Nantes devront aller à Auxerre.
Au moins, il y aura certainement une équipe qui aura des points.
Les deux, peut-être. Un petit match nul.
Mais pour moi, Auxerre est une meilleure équipe que Nantes. Auxerre, ils sont mal payés sur pas mal de matchs que je vois où je me dis, ah, ils méritaient mieux quand même.
Le match face à Lille. Le match face à Lille, le 4-3 ou 5-4.
Avec
le match de
Diaoune à la dernière minute, là. Celui-là, il fait mal à la tête. Alors que Nantes, j'ai moins ce sentiment-là. Nantes, quand je les vois jouer, c'est tout le temps soit en braquage.
Non, mais aussi, quand tu les vois, il y a un moment, ils ont fait une petite remontade.
Ouais, ils ont enchaîné.
Victoire d'affilée.
Ils sont sortis carrément de la zone.
Ils sont sortis de la zone.
Ils ont battu Lens à Bollard et tout, c'était fou.
Ils sont vite retournés à leur place en 20e.
Mais l'année prochaine, tu peux être sûr qu'ils montent. Hein. L'année prochaine, dans Ligue 2, tu peux être sûr qu'ils montent.
Dans les deux ans, c'est sûr.
C'est toujours la même chose.
Ils aiment trop faire ça.
Oui, mais voilà, c'est une équipe qui fait le mieux. Mais voilà, en tout cas, Nantes qui ont Strasbourg à jouer, qui auront Metz, qui auront Auxerre, ils vont enchaîner vraiment Metz, Auxerre, là, les concurrents.
Que les classicos.
Nantes, ils vont les enchaîner, oui. Et après, ils vont jouer contre Brest, ça aussi un classico de Breton. Et ensuite, tu vas jouer contre Rennes.
Encore les Bretons.
Ouais, encore les Bretons. Ensuite, tu joues à domicile contre Marseille. Ensuite, et même là-bas, tu peux prendre des points. Et ensuite, tu vas à Bollard. Après, tu vas à Bollard derrière, à Lens. Et ensuite, après, dernière journée, tu joues à domicile face à tout.
Il faut qu'ils prennent des points dans leurs trois prochains matchs. Exactement. Sinon, ça va être compliqué.
Ah bah là, en jouant Strasbourg, semaine prochaine, Strasbourg, ils ont pas mis un but en deux matchs.
Tu penses qu'ils vont ouvrir le compteur là?
Après Strasbourg, ils jouent Rijeka jeudi, donc peut-être qu'ils auront un peu le.
Ouais, mais après, il va commencer à y avoir aussi les trucs de fin de saison, les petits objectifs de fin de saison. Je pense que Panicelli qui veut finir meilleur buteur, pareil pour le Pôle Arène, et ça va les faire gagner un ou deux matchs pour moi, ça.
Ah non, là, de toute façon, tu joues contre des équipes contenantes, tu te dis là, j'ai contre Paris FC, trucs, etc. J'ai pas fait le taf contre Paris FC et contre Auxerre, deux équipes qui jouent le maintien. Là contre Nantes, tu peux pas te louper. Tu peux pas te louper, t'es obligé d'en
mettre. Et contre Nantes, c'est à Nantes ou
ouais,
à domicile?
Il me semble que c'est à Nantes.
Ah, c'est à Nantes. Après, à Nantes, ça peut être compliqué.
Attention à l'effet, quand même, l'effet mental de Vaïd.
Ouais, de Vaïd, c'est ça.
Les deux lignes
parce
de 5.
Parce que s'il faut, il va faire une cambouré, lui.
Parce que mine de rien, il y a quand même un peu de qualité dans cette équipe. Ablin, s'il a la tête à l'endroit, ça reste un bon joueur de
Ligue
1.
Ouais, mais en fait, le coach, même, comment il est arrivé, on me dit qu'Albin, ouais, c'est un bon joueur.
Mais il n'a pas tort.
Il a mis que 4 buts.
Il n'a pas tort.
Mais moi, c'est ça.
Mais quand t'arrives comme ça, en fait, comment ça, tu vas avoir le vestiaire avec toi?
Mais après, il a dit que c'était une blague. Tu peux en rigoler. Tu peux rigoler avec les joueurs. Il arrive, il fait une petite blague. Il a dit, j'ai rigolé avec lui. C'est ce qu'il a dit, en tout cas.
Non, et puis lui, c'est un mec à l'ancienne. C'est-à-dire que le foot d'il y a 30 ans, c'était avant que tu sois un bon joueur, fallait que tu mettes 20 buts plus 20 buts plus 20 buts. Et là, on disait, ah, ça va, c'est un bon joueur.
Dis-toi.
Aujourd'hui, ça doit rendre fou de voir un mec qui est considéré comme un bon joueur alors qu'il a mis 10 buts dans sa vie. Il doit dire, c'est quoi ça?
Dis-toi, moi j'ai dit la même chose. Dis-toi, l'année dernière, on parlait de Ablin à 40 millions.
Mais je crois que l'offre, elle a eu lieu.
Moi, quand je l'ai vu,
je crois qu'elle a existé.
Je crois que c'était 35 et ils ont dit 40 et ils ont dit 40.
Mais même à Marseille, quand Marseille le voulait. Ils ont proposé 40 millions.
Non, Marseille n'a pas proposé 40.
Si, Marseille, il le voulait.
Oui, mais Nantes, ouais, Nantes a proposé,
ouais, a proposé 40 millions.
Mais je crois que le PFC a mis 35 et que Nantes a dit non.
Exactement.
Mais quand j'ai vu Ablin, quand j'ai vu Ablin avec les espoirs et tout ce qui ratait, il est bon, hein, dans les dribbles et tout ça, mais
quand
dans la finition.
Côté, là,
il n'a pas de finition.
Ah, il n'a pas de finition. Je dis, comment tu peux mettre 40 millions sur un mec qui n'a pas de finition?
Mais ça ne peut rien dire aujourd'hui, ça.
Mais personne ne les a mis et je pense que maintenant, il va le vendre à la baisse. Il aurait dû le faire partir à 30.
S'il descend en Ligue 2, il va le vendre 5 millions. Hein.
Bah, il aurait dû le faire
ou
partir
7.
À 30.
Mais pas...
Peut-être 15, il partira.
Ouais, 15, parce que 15, tu vois comment il s'appelle, Lucas Tassin, qui descend aussi, il voulait l'acheter, il voulait le vendre
C'est fou,
des milliers de cents.
Voilà, en tout cas jamais. Pour la Ligue 1, hein, messieurs, on va faire une petite pause et on va revenir avec...
La Ligue des Champions.
Avec la Ligue des Champions, Lucas. Je voulais laisser le mot pour... parce qu'il n'y a que ça qui peut dire. Non, je voulais laisser le mot parce qu'il peut que dire la Ligue des Champions, mais Marseille n'y est plus, mais c'est pas grave. On y revient juste après.
Mais Marseille, il retourne l'année prochaine.
De retour dans les locaux de mon Paris FM. Et là, on va jouer pour la Ligue des Champions. En tout cas, on va parler de la Ligue des Champions. Hein. On rappelle les éliminés ou non, c'est pas la peine de rappeler les éliminés. Non. On rappelle en tout cas ceux qui ont
si
été qualifiés.
Si t'as 24 noms à citer, vas-y.
Non, on aurait cité juste les équipes françaises.
Juste tes préférées ?
Non, juste les équipes françaises.
Vas-y.
Bah, Monaco-Marseille.
Très bien. Voilà, juste dans la rappeler. Logique des choses, globalement.
Assez bizarrement, mais il n'y a pas de souci.
Non, non. Bref, moi, les 16e de finale, c'est un objectif. Les 8e, faut se regarder dans les yeux. C'était pas. Ça aurait pu être un exploit étant 8e
ouais,
pour
16e,
l'OM, pour Monaco.
Ouais, mais en 16e. Après,
mais c'est ce que je te dis.
Oui, mais après, en 16e, tu rencontres un Bodo Glimt ou Benfica.
C'est plus ou, je crois que Maxen n'a
ou,
pas d'excuses.
Sporting, tu vois.
La Bodo Glimt. On va
enchaîner directement. Bodo Glimt sont, on peut dire, limite, sont en quart de finale. Ils quasiment. Ont gagné 3 buts à 0.
C'est exceptionnel.
3 buts à 0 face au Sporting. Et c'est ce que je te disais même.
Mais moi, si, je te dis quoi s'ils gagnent pas par 2 buts d'écart.
Oui, ça va être compliqué.
Compliqué au retour. Mais ils en ont mis 3.
Ils en ont mis 3. Et je les vois même pas perdre au Sporting.
Moi aussi.
Comme
parce
je te dis, je les vois même pas perdre au Sporting. C'est
pas,
une équipe.
Ça,
Bodo Glimt, c'est une équipe, je peux te dire, un peu surprendre une équipe. Je te jure, c'est typiquement une équipe qui peut sortir Arsenal demain.
Non, ah ouais, c'est ça. Déjà,
Arsenal, bah, on peut le voir très vite.
On peut le voir très vite.
Hein.
On peut le voir très vite. Mais
parce
c'est
que normalement, c'est le quart.
Mais c'est déjà possible que Leverkusen les sorte.
On verra pas du tout. Arsenal va pas se qualifier.
Mais c'est déjà possible que Leverkusen les sorte.
Peut-être.
Moi, je pense que Leverkusen va sortir.
C'est déjà possible que Leverkusen les sorte.
Leverkusen a été bon ce week-end.
Ouais, j'étais
face au Bayern.
Oui.
Ils ont fait un bon match.
Ouais. Après, Bayern, c'était à 9. Bon, ils ont eu 2 buts refusés.
Mais ils ont été à 9 à la fin. Mais je veux dire, la manière d'entamer le match, etc., ils n'ont pas été entièrement victimes.
Ça a été bien.
Ouais, ils ont mis là, ils jouaient automatiquement
encore
au football, du
Peps. Mais je te le dis, Bayern.
Ah, mais quand ils ont marqué, ils ont commencé à reculer.
Ah oui, bien sûr.
Parce que même là, après, même là, c'était le penalty. On en parlait un peu en off, Lucas. Le penalty que Madueke a concédé, tout simplement.
Il est gratuit.
Moi, je trouve que plus gratuit, c'est un scandale. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'encore une fois, on dit la VAR machin. L'arbitre, il va la voir, la VAR. Il voit que Madueke, s'il est effleuré, c'est un maximum. Il le touche à peine. Tu vois que la chute, elle n'est pas naturelle. Moi, je ne comprends pas comment ce but qui sauve Arsenal. Et c'est un peu frustrant. Tu sais, c'est fin de match. Ça fait plusieurs matchs où il y a des coachs de première ligue qui se disent Arsenal, l'arbitrage. Là, on est en Ligue des Champions. On a Leverkusen qui fait un résultat alors qu'ils ne sont pas favoris. Et voir Arsenal revenir sur la dernière seconde du match avec un pénalty aussi litigieux, c'est un peu frustrant. En tant que spectateur neutre, en tout cas, c'est assez frustrant.
C'est le foot de la VAR, ça. C'est écœurant. C'est que, à partir du moment où tu vas voir l'écran et qu'il y a un micro-contact, même si c'est ça,
ça
on va dire pénalty, parce qu'en fait, il y a vu le micro-contact.
En fait, je sais même
vraiment,
pas si...
tu regardes la picture globale.
En fait, ils vont montrer exactement ce que vous ont
montré déjà.
Au micro-ralenti.
Ouais, ils vont montrer ralenti, donc
ils vont montrer
tout paraît grave.
Montrer et il y a un premier truc. Quand toi, tu siffles pas pénalty, on t'appelle à la VAR,
on te dit,
t'as fait une erreur.
Oui.
Donc, et quand si... t'arrives, logiquement, même
tu
si
vas
tu vas
chercher l'erreur,
tu vas quand bien même sûr. Siffler pénalty.
Et si tu restes sur ta décision, on va dire que t'as fait faute parce que t'as pas écouté les autres.
Exactement.
En gros, t'as fait qu'à ta tête.
Exactement.
Donc, le système de notation, il est pas bon.
Mais il est pas allé voir la VAR.
Et il a pas cherché à comprendre.
Non, c'est pénalty. Je crois qu'il l'a vu.
Oui,
je crois que parce que moi, j'attendais.
Non, mais ça lui a été confirmé, quoi qu'il arrive.
Oui,
quand
il a sifflé,
c'est qu'on lui a dit.
Il a sifflé et on lui a dit que c'est bon, mais il est pas allé voir la VAR. Lui il a
siffler pénalty, on lui a dit que t'as pas fait d'erreur manifeste.
Voilà, ouais.
Donc il a dit en gros 50-50 zone grise.
Voilà, moi, dans mes souvenirs, il siffle pas tout de suite parce que moi je l'ai revu 50
fois. Il siffle pas tout de suite.
Je me suis refait 50 fois le. Ouais, c'est ça.
Mais je crois qu'il reste à l'oreillette, mais je sais pas s'il allait voir le.
Pour moi, il a été quand même accompagné par la VAR. Il y a quand même une grosse erreur de jugement avec ses. On en a déjà parlé, mais c'est. Je sais plus c'est quel. C'est Lyon la semaine dernière contre le Paris FC qui a
la main là, la main à bout portant.
Pas
à bout portant.
Seulement à bout portant d'une part. Et surtout, qui ne modifie pas la trajectoire du ballon.
En plus, oui. Parce que ça l'effleure
tellement le doigt du joueur du Paris FC, je ne sais plus lequel, que ce n'est pas possible. Et donc, ça fait beaucoup de pénalties, en fait, où on voit le micro-truc. Et en plus, quand c'est l'équipe favorite qui permet de se rattraper.
Ça, c'est les pénalties des favoris.
Exactement, c'est un peu plus facile. Et donc, c'est assez exaspérant.
Donc là, il y a eu le pénalty aussi du Barça, hein, ce week-end.
Oui.
Vous n'avez pas vu le pénalty du Barça ?
Donc là, à vous entendre.
Il y en a deux. Le premier, déjà. Il est scandaleux, moi.
Le premier,
touche légèrement le talon et du coup, quand c'est lui, il va se faire un croche-pied.
Mais c'est lui-même qui lève ses pieds pour aller en contact du truc. Du coup, tu sais même pas, le premier, il est tout scandaleux que le deuxième. Le deuxième, le joueur est par terre.
Ouais, mais le deuxième, il fait comme un arrêt de gardien.
Non, c'est pas un arrêt de gardien. Il est déjà au sol.
Ça
marche par terre, pas comme Medina au Bernabeu, tu vois ou pas?
Non, c'est pas pareil.
Non,
ça n'a rien à voir.
Bah là, il est comme ça en fait. Il a grandi vraiment la surface de corps.
Non,
pour
c'est
le coup.
Pas qu'il a.
Non, mais il est déjà au sol.
Parce qu'il est déjà au sol.
Le mec, oui, il est déjà au sol. Il était déjà comme ça. L'autre, carrément, il essaie de mettre la tête.
Mais pour moi, la balle vient vers lui.
Pour moi, ça, c'est pas un penalty.
La balle vient vers lui. C'est pas lui qui va avec le ballon.
Oui, ça, c'est l'avare qui l'appelle pour. La règle, c'est soit ta main, quand ta main est au sol, il y a pas péno.
Mais pour moi, quand t'es défenseur, tu ne peux pas te retrouver dans cette situation où tu es allongé par terre avec la main comme ça.
C'est donc
pas
ça dépend du geste.
C'est qu'il y a un problème.
Non, mais ça dépend
si tu es en train de tacler, oui, mais là.
Mais c'est ça le truc. Non, mais ça dépend comment. Ça dépend comment il s'est retrouvé comme ça. Il y avait eu contact juste avant, le gars il tombe par terre et il essaie. Après l'autre, il sait qu'il va tirer, il essaie de mettre de la tête, mais il se rattrape déjà avec la main dans un premier temps.
Ouais, mais. Donc, tu vois, c'est pas moi, une main d'appui où le mec est comme
le
ça.
Le Barça ne l'ont même pas réclamé.
Ouais, non, mais oui.
Le Barça ne l'ont même
des...
pas réclamé.
Mais ça, c'est des
pénalties. C'est l'arbitre après, VAR. Hop, je vais voir la VAR et il vient derrière et il
mais
le
ça, c'est des pénalties VAR, il y en a 15 par saison. Et non, en mais fait, c'est.
Non, mais là, les deux,
ça
en fait, dans un même match.
Ça tue des matchs.
En fait, dès le début du match, tu siffles deux pénalties comme ça, deux cadeaux comme ça. Je trouve que, mais bon, on y revient.
Mais pareil, le premier, moi, je le siffle pas. Mais si t'es l'arbitre et que tu vois ça, en fait, tu peux pas dire, ah, t'as fait une erreur manifeste, il n'y a pas contact. Parce que la vérité, c'est qu'il y a un micro-contact. Même si pour moi, c'est pas un contact suffisant. Mais en fait, c'est pas un contact suffisant pour faire tomber le joueur. Mais il y a quand même un contact, donc t'es l'arbitre, tu vois la VAR, tu peux pas revenir.
Il y a aussi un problème sur la VAR, comment ils appellent.
Exactement.
Les
arbitres. À vous entendre, vraiment, j'ai comme l'impression que vous êtes contre la VAR.
Moi, oui.
Ouais.
Mais je crois que normalement, la VAR, elle est venue pour améliorer le football. Parce qu'il y a tellement
ça crée d'autres. Moi, je suis que pour la goal line technologie et le hors-jeu. Parce que ça, c'est factuel,
en fait,
c'est binaire.
Il y a tellement de litiges.
Pour moi, même le hors-jeu, c'est pas binaire.
En fait, il y a tellement de litiges.
Le hors-jeu,
il
faut calculer
y a
à l'instant précis où la balle quitte le pied.
Ça restera
rien n'est binaire.
Plus précis que l'arbitre tout seul.
Parce qu'on monte jamais.
Avant,
on monte jamais quand est-ce que la balle part du pied du joueur.
C'est vrai.
C'est exactement ce que je veux dire.
Parce que c'est quand qu'elle part du pied.
Exactement. À quel moment elle arrête de toucher.
Pour eux, à quel moment
donc, c'est impossible
si
de
la balle elle touche.
Donc, ça ne peut pas être binaire.
Oui, ouais, mais d'un autre côté, avant, quand tu n'avais pas la VAR, tu avais vraiment des buts hors jeu de 3 mètres.
C'est pour ça que tu peux y avoir une zone grise. Tu peux te dire.
Tu te dis, c'est l'arbitrage, il fait partie du truc, l'erreur est humaine. Maintenant, de 3 mètres, on ne va pas abuser non plus. Mais
il y avait cette fois des oublis.
Non, il y avait des buts, il y avait des buts qui étaient largement au jeu, qui étaient
le mec qui est en train de se replacer et qui enfin tu vois,
oui,
il y avait des trucs qui étaient quand même
Cristiano en Ligue des Champions avec Marcelo là qui lui fait la passe alors qu'il
contre
est évidemment
Bayern,
en jeu,
il est vraiment
plus,
derrière le gardien.
Après c'est plus un but important, je crois qu'ils ont déjà gagné, c'est vraiment le but
le match était déjà plié.
Je me souviens bien.
Et puis combien de fois aussi tu avais des actions où ton joueur était pas hors jeu, il partait en profondeur, l'arbitre il levait, l'action était terminée.
Mbappé à la fin, Mbappé au PSG, c'est dans les années bien sûr.
C'était un peu écœurant. Moi ça me dérange moins de me faire avoir sur un hors-jeu de 3 cm que de me faire avoir sur un hors-jeu de 3 mètres en fait. Enfin, c'est
après le truc de la VAR, c'est que ça ramène de la pression, surtout dans les matchs en jeu, où quand la VAR, tu dois faire appel à la VAR dans les dernières minutes et que c'est un match en jeu. Tu vois, par exemple, admettons une demi-finale
Cannes,
de Ligue des Champions.
Tu penses à la Cannes, c'est nous ?
Même en dehors de ça, mais tu vois, une demi-finale de Ligue des Champions, un mec qui touche la balle de la main, l'arbitre il va passer 10 minutes parce qu'il va se dire est-ce que je sacrifie l'équipe ou pas ?
Et au moindre contact dans la surface, micro-contact, le mec il va tomber comme
une crêpe, c'est ça. Excusez-moi messieurs, je vais juste interrompre le débat parce que si on
débat
pourrait
VAR,
le débat en train de
2 heures sur la VAR, c'est
on va
sûr.
Pas, on va pas poursuivre. En tout cas, le Paris Saint-Germain qui se sont imposés difficilement face à Chelsea 5-2, hein, ça ne reflète pas totalement le match, Lucas ?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Ouais, moi je crois que
j'allais dire totalement, mais vas-y, continue.
Non, moi je crois que le PSG vraiment moi je crois que dans le temps de match le PSG, ils avaient bien commencé, mais après ils ont été bousculés, voilà, ils ont été bousculés dans
pas
la deuxième
pendant
partie.
40 minutes, on est d'accord.
Ouais, ils ont été bousculés, mais après vraiment ils ont pu revenir sur des individualités et tout.
Chelsea sont venus comment, les deux buts de Chelsea, ils venaient quoi?
Ben c'est des individualités, mais en fait non, je comprends ce que moi j'attendais du PSG, c'était une maîtrise totale du sujet.
Tu peux pas attendre ça de Paris dans ce contexte-là. Chelsea, ça reste
une
bonne
vraiment,
équipe.
Ils sont détenteurs en titre.
Maîtrise totale.
Ils sont détenteurs en titre.
Très grosses attentes. Hein,
ouais, je comprends. Oui, ils sont détenteurs en titre. Et on s'est dit que voilà, que vraiment Chelsea, comme on dit, Chelsea, c'est pas. Là, ils sont pas bons. Chelsea, ils sont moins. En fait, ils sont un peu irréguliers. Donc, on s'est dit que peut-être le PSG. Certes, le PSG gagne. Oui, il y a la gagne qui est assurée. Ouais, il y a 3 buts d'écart.
Il est fort.
Ouais, le 5-2, il est fort. Le 5-2, il est fort. Mais dans le contenu, c'est parce que moi, j'attendais. Voilà, il faut que j'ai aussi un esprit critique. C'est pourquoi on est là.
Dans le contenu, je suis d'accord qu'il y a un espèce de gros trou, en fait. Mais
jusqu'à l'erreur.
Jusqu'à l'erreur. Et même, l'erreur, elle vient pas de nulle part. Je veux dire, si vous avez bien analysé le match, combien de fois il y a cette situation où,
Jürgensen,
il est au pied, il fait un petit peu le malin, et en fait, c'est passé 3 fois, 4 fois, et la 5e fois, ça a cassé.
Oui, non, y a
donc c'est aussi
ça.
Le pressing parisien, notamment incarné par Barcola, qui a fini par porter ses fruits. Et je suis désolé, à 2-2, quand Chelsea rate son but hors-jeu, Paris est comme ça. La réaction de Paris, elle est très très forte. Les 3 buts.
3-2, le but hors-jeu.
Si t'as raison, pardon. Déjà, 3-2, c'est pour revenir à 3-3. Mais en tout cas, mon propos est que dans le dernier quart d'heure, quand le dernier quart d'heure arrive et qu'il y a égalité ou pas loin, il y a quand même une grosse pression sur Paris qui doit un peu se faciliter le match retour. Et là, on a quand même vu une réaction d'équipe qui en a encore sous la semelle. Ça ressemblait pas trop à l'an dernier parce qu'il y a eu quand même 2 exploits individuels, on va le dire. Mais le dernier but, il rappelle un peu ce qu'on a vu l'an dernier avec un dédoublement très rapide et une contre-attaque qui a été menée absolument parfaitement. Mais voilà, moi, je suis...
Ouais, mais les 15 dernières minutes ne reflètent pas un match entier.
Non. Bah, oui.
Donc c'est pour ça que...
Il y a un gros trou d'air dans le match. Après, pour moi, Paris avait bien commencé. Pour moi, Paris, quand ils prennent les deux égalisations, pour Paris, elles sont archi frustrantes parce que Paris ne mérite pas. Paris,
c'est contre le cours du jeu.
Nuno Mendes, on l'a tous vu, la façon qu'il a de ne pas se replacer. Et Nuno Mendes, si on peut aller plus loin, tout son langage corporel a été assez particulier pendant le match. Il avait l'air fatigué plus que les autres. Et donc, voilà, il y a deux erreurs. La grosse erreur de Doué ensuite sur le deuxième but. Mais sinon, pour moi, Chelsea... mais pas vraiment Paris en difficulté. Donc au final, peut-être que 3, ça fait beaucoup, mais pour moi, une victoire par 2 buts d'écart, elle n'est pas...
pour moi déjà, dans la bataille du match, c'était équivalent.
Ouais, c'était
franchement, il n'y avait pas une équipe au-dessus de l'autre. Paris a mieux commencé.
Ah, ils ont beaucoup mieux commencé, la première demi-heure.
Mais après, Chelsea a eu son temps fort aussi, où Paris a eu du mal à exister. Les deux équipes...
Mais c'est pas un temps fort où Paris se crée des occasions, où Chelsea se crée beaucoup d'occasions, tu vois. Moi, j'ai pas d'occasion en tête, où j'étais en panique.
Ouais, mais ils sont dans le
moment.
Ils sont dans le camp du PSG.
Il est pas de chaud, je crois. Il tacle en première mi-temps.
Oui, t'as raison.
Il a tombé le but du 2-1.
Ça peut faire un...
Le but du 2-1. Le but du 2-1 d'Ousmane Dembélé, ça vient comment?
C'est un arrêt, en fait.
Un arrêt stratosphérique de Safonov.
Pas stratosphérique. Doucement.
Surtout qu'il est fautif sur le premier, en plus.
C'est le même que le premier qui finit par arrêter, parce qu'effectivement, c'est un tir fort cadré, mais stratosphérique, c'est... Revois les arrêts de Donnarumma l'an dernier, qu'on parle de stratosphérique.
D'ailleurs,
Donnarumma
a retrouvé
son vrai niveau Ligue des Champions.
On va pas comparer les niveaux. Là, vraiment, Safonov, ce qu'il nous fait cette saison...
La faute de main qu'il a fait.
Justement, il a retrouvé son vrai niveau d'avant l'année dernière.
Safonov, ce qu'il nous fait cette saison... Et même toi, t'aurais pas mis une pièce sur lui pour dire que Safonov déjà.
Pour moi, Safonov, il a pas le niveau d'un titulaire au PSG actuel.
Ah oui, il a pas le niveau, mais il est titulaire.
Safonov, Marquinhos, ça peut être la principale. Les deux là.
En fait, le maillon faible, comme on dit.
Les maillons faibles, ouais. Parce que pour moi, Pacho, là, on le voit, le niveau. Pacho, au bout d'un moment, depuis quasiment 2 ans qu'il fait ça, en tant que meilleur défenseur du monde officieux, il se pose là pour moi. Et les latéraux, un peu moins flamboyants que l'an dernier. Ils apportent et moins offensivement et ils sont moins rassurants défensivement.
C'est normal, il y a de la
fatigue. Dommage parce que Nuno Mendes, l'action où il ne se replace pas, il défend très très bien de base sur le côté droit. Mais moi, quand il y avait 4-2, j'ai dit finalement, ça correspond plus à ce que j'attendais du match.
Et à ce que t'attendais du match, mais pas à ce que j'ai vu sur la première demi-heure. À ce qui est le reflet du match.
Mais quand même, même quand Paris a été stérile pendant une demi-heure, Chelsea n'a pas été très dangereux non plus.
Personne n'a dit que Chelsea a été dangereux à cette période-là.
Il y avait plus de mal à créer de jeu, mais quand même, Paris a eu globalement la possession. Chelsea a attendu.
Mais Chelsea a pu le faire douter, c'est ça le problème. Ils ont fait douter Paris au moment
de Chelsea quand même.
Ouais, ils ont fait douter Paris. C'est ça, c'est ce que, en fait, Paris, avec son statut, ne doit pas douter de ce genre de match. Quand on commence fort, on termine fort.
C'est une équipe quand même.
Oui, en fait, on peut le dire.
Le milieu de terrain de Chelsea, avant l'erreur, il a été à la hauteur.
Il y avait du répondant.
Moi, je pensais qu'au niveau de l'intensité, notamment, ils allaient marcher sur le PSG. Au moins sur une demi-heure.
Moi, je pensais pas.
Au départ.
Mais je pense qu'il y a des choses qui expliquent ça. C'est qu'il y a eu moins de décalage trouvé. T'as vu l'individuel de Neves sur Palmer qui leur a fait énormément de mal. Et la même chose avec Pacho sur João Pedro. Et en fait, c'est deux joueurs qui créent beaucoup de jeux, qui créent des espaces pour les autres. Et le fait qu'ils étaient complètement dominés dans leur. Confrontation directe, exactement.
Mais je
trouve
que c'est là que tactiquement Rodenayer a perdu sa bataille.
Alors que
quand il venait avec Strasbourg, il mettait beaucoup en difficulté.
Il était
PSG.
Plus en complexe, c'était pas les mêmes
PSG,
équipes.
Mais il les mettait beaucoup plus en difficulté. Avec, je me rappelle d'un match au début de saison avec Panicelli qui fait un match de fou. Et ça doit finir match nul, je crois, 3-3. Et je m'attendais à ce qu'il fasse à peu près la même chose, mais avec une équipe un peu meilleure. Donc je me suis dit, ça va être une belle bataille. Et en fait. Certes, les 3 buts d'écart, c'est abusé. Moi, je trouve que la victoire du PSG, elle est quand même méritée. Si tu me donnes pas de score et que je dois choisir un vainqueur au point, je te dis le PSG mérite plus, tu vois.
Quand tu dis qu'ils sont vainqueurs, c'est parce que tu retiens le dernier quart d'heure. Avant le dernier quart d'heure,
c'est ce qui compte la fin d'un match.
Oui,
j'ai reparé quand ils prennent la remontada, c'est parce que dans le dernier quart d'heure, ils en paument 3 alors qu'ils ont tout pour gagner. Le dernier quart d'heure, c'est la fin du match, c'est toujours ce que tu gardes sur un match.
Mais
c'est le plus important, comment tu finis ton match.
Non, mais c'est pour ça que je te dis, avant le dernier quart d'heure.
Mais
le match,
mais Chelsea n'a jamais senti gagner ce match.
Non, parce que tu me dis, en gros, c'est ce que tu t'attendais du match et ce que tu voyais. Mais avant l'erreur du gardien, me dis pas que tu voyais une victoire parisienne parce que c'était Chelsea qui avait des temps forts à ce moment-là. Avant qu'il y ait ce but, avant qu'il y ait cet arrêt et avant qu'il y ait l'erreur du gardien, c'était Chelsea qui avait un temps fort. Mais pour te dire, même moi, je regardais le match, je me disais, ah ouais, Paris, là, c'est redevenu costaud derrière. Et là, bam, l'erreur du gardien, eux-mêmes, comme c'est une équipe assez jeune, ils ont coulé. Au lieu de se dire, on va rester à 3-2, et le coach, aussi novice, au lieu de se dire, on va attendre un petit peu. Non, il a là l'abordage et là, coup de boutoir, coup de butoir.
Et après, le coup de butoir, il vient. Le mec est hors jeu, mais il aurait pu y arriver.
Les coups de butoir, ils viennent parce qu'il fait rentrer un mec qui veut aller marquer.
Oui, bien sûr.
Parce que tu fais rentrer un autre mec.
Tu parles de Guevara ?
Oui.
Ah, d'accord.
Si tu fais rentrer un autre mec qui se dit, vas-y, on joue le temps. Voilà, je vais, j'attaque, mais après, comme d'habitude, dès que j'arrive, je reviens, je ressors jusqu'à derrière. Mais là, Vara, c'est parce que lui, dans sa tête, il avait des choses à prouver.
C'est clair.
Donc, il allait montrer ce qu'il avait à prouver.
Et derrière Chelsea, j'ai trouvé ça faible. Au-delà du gardien, parce qu'il foire sa relance.
Ouais,
et avant,
fois,
il y en a
3
ou 4.
Avant,
il y en a 3 ou 4 qui se sont passés à pas grand chose.
Mais parce que.
Même Fofana, je trouve pas qu'il fait un bon match.
Mais comme il a dit Lucas, après, ils ont joué plusieurs fois avec le feu.
Oui, bien sûr.
Mais de la télé, tu le vois.
Mais c'est les consignes de Rossignol aussi, le fait de ressortir très bas.
À un moment, on a vu en tout cas Enzo hurler sur. Sur le gardien, c'est en juste lui avant disant le but. Mais pourquoi tu dégages pas, pourquoi tu dégages pas, il l'incendie, mais vraiment
je crois que c'est juste, après, juste après le troisième but en plus, donc il refait une dinguerie
après le troisième but, il attend encore, en fait il essaie de jouer comme s'il avait pas de pression, genre il y a un pressing mais il fait comme s'il y avait pas de pression,
mais c'est forcément une consigne du coach, ce genre de,
mais il la met toujours à un joueur qui est déjà pressé,
au centre
en plus, c'est à dire si tu la perds c'est rédhibitoire,
parce qu'en fait il veut éliminer la première ligne de pression en se disant j'attends que le joueur arrive au plus proche, comme ça ma première passe elle casse la ligne, et lui il est dans la merde, mais il casse encore une ligne et on est
mais comme il a dit Lucas, une fois que tu le fais, une fois
c'est
suicidaire, deux fois, trois fois,
c'est suicidaire,
au bout d'un moment ça passe,
ça peut marcher avec un joueur type Verratti qui va réussir, même avec un joueur dans le dos, à faire la pression, sinon un joueur qui fait, qui a les yeux partout et qui va réussir à faire la passe sur les côtés,
comme Verratti il en a perdu quand même pas mal,
non, il en a perdu un qu'on connaît, il en a perdu quand même relativement peu par rapport au risque qu'il prenait, on n'oublie pas, mais non, mais soit je veux dire, soit t'as un 6 exceptionnel qui va réussir à faire le jeu malgré ça, mais sinon effectivement c'est suicidaire,
comme ça jouer deux jeux avec trois mecs qui arrivent dans le foot d'aujourd'hui, en fait que tu sois extraordinaire c'est un fait, mais tu y arrives
pas
tout le temps,
il y a plein de joueurs qui aussi ça fait ce petit débat,
mais pas constamment
pas à 100%,
un Lucas Modric, un Lucas Modric dans cette situation, mais il te la sort la balle, soit sur le côté, un Lucas Modric dans cette situation, il te la sort la balle,
oui, ou Vitinha, mais t'en as pas beaucoup, t'en as pas 10-15 qui font ça au niveau
européen, et même eux, Vitinha, ça lui arrive une fois ou deux par saison d'avoir à la boulette le ballon qui glisse, et
mais même eux ils sont pas pressés par trois mecs parce qu'ils sont intelligents. Ils savent comment se déplacer pour éviter. Voilà, donc le fait qu'ils se placent.
Les adversaires sont pas connes, ils vont pas déclencher le pressing sur un starter.
Sinon, ils vont se faire effacer.
Par contre, les gars, sincèrement, on va pas s'éterniser sur le débat, mais moi, je crois que Luis Enrique, il a réussi son coup tactique.
Ah oui, après.
Bah oui, tactiquement, il a réussi parce que là.
Au niveau du pressing, ils ont tout compris.
Le plus important. Moi, je crois que la grosse déception, ça a été déjà Désiré Doué, et la satisfaction, ça a été. Parce que quand il rentre, à lui seul, il change le coup
mais
du
Magulou
match.
Aussi, hein, Magulou aussi, très important sur le premier de Guevara.
Oui, bien sûr, très important, très important au pressing et surtout en fait les premiers ballons, parce que quand Magulou il rentre, en fait, on sent que le PSG se sent mieux, il se sent supérieur au milieu de terrain parce qu'il apporte aussi cette vivacité, cette petite fraîcheur qui manquait, voilà, dans les espaces, il comble les espaces, il fait des appels de balles, il fait les sorties de balles. Je crois que Luis Enrique, il est gagnant et là, il a tout vraiment pour ne pas sombrer au match retour.
Mais il a quand même Zaïre Emery qui reste qui n'est pas complémentaire, en tout cas je parle pas de forme, il a montré qu'il n'était pas complémentaire aux deux autres, pour moi, et là tu vois que même Fabian Ruiz ou même Magulou qui pourrait prendre cette place là, je pense que ça correspond plus à ce que veut mettre en place Luis Enrique que Zaïre Emery, qui finalement a le même profil que João Neves en moins fort, et du coup je pense que ça explique aussi les difficultés au milieu de terrain de Paris sur ce match.
Après je pense aussi dans ces matchs là il peut servir parce qu'il va au mastic.
Ah oui, avec son volume de jeu, forcément il est utile, mais dans l'expression collective parisienne, je veux dire, il manque un truc par rapport à Fabian Ruiz, et pour moi c'est un peu la responsabilité de Zaïre Emery, mais c'est normal qu'il n'y arrive pas, c'est pas son foot quoi.
Excusez-moi, on va poursuivre messieurs. Galatasaray qui se sont imposés face à Liverpool 1-0 comme en phase de poule, quelque chose à dire.
Grand match, en tout cas un grand match vraiment des Turcs. Voilà, j'ai été vraiment impressionné par l'impact qu'ils ont dû mettre. Et déjà derrière, ça a été très solide au milieu de terrain. Si tu imagines que Mario Lemina vraiment qui fait un match, voilà, qui plombe tout le milieu derrière. Je suppose là, ben vraiment, c'est un grand joueur, mais il y avait du répondant. Je crois que les Turcs, ils étaient mieux organisés que la troupe à Anslot. Voilà, on a ressenti, et c'est normal que Galatasaray méritait de gagner. Et même, je crois qu'au retour, ils sont capables de faire douter les Reds.
Et petit aparté, je voulais rajouter aussi le sublime tifo que
sa maman.
Avec le tifo, ça arrive à ça transcende les âmes déjà. Parce que quand tu ressors d'un tifo, tu te dis que voilà, tu as le soutien de tout un public. Donc du coup, voilà, tu te la donnes. Et même en interne, les joueurs sont satisfaits d'Osimhen, parce que déjà, c'est pas qu'un buteur, c'est un travailleur. C'est lui qui déclenche le pressing. Il est là, par moment, il peut dézoner, il peut même jouer en 10. En fait, pour moi, je crois que c'est un attaquant complet. durant ces dernières années. Si Paris l'aurait cherché, je crois que l'équipe parisienne serait...
Encore plus fort.
Ouais, je crois que oui.
C'est différent. Mais il t'apporte pas ce que t'apporte Dembélé dans la construction, dans la manière de participer, mais il t'apporte bien d'autres choses.
Oui, dans les buts, en fait. Dans les buts,
serait totalement différent.
Mais Paris aurait été plus tueur. Là où je le rejoins, c'est je pense que si Osimhen, sa nationalité sportive, elle n'est pas africaine... Laisse finir avec son talent, son âge. C'est pas une saison moins aboutie que la dernière qui fait que Naples le vire, mais c'est pas possible que ce mec là avec son talent,
juste pas au PSG par rapport au style de jeu, mais dans d'autres
clubs. Pour moi, le fait que Arsenal ça pas le récupérer avant Gyökeres, pour moi c'est incompréhensible.
Ou un anglais quel qu'il soit. Mais ce qui est bien avec Galatasaray, c'est comment ça nous fait un match un peu accroché pour le retour, parce que on va en manquer.
Ça va être chaud en plus.
C'est ma déception un peu de ces matchs aller, c'est-à-dire qu'il y a trop de matchs qui sont déjà pliés, même si bon, on peut toujours dire la Ligue des Champions machin, mais bon.
On y revient, il n'y a pas tous les matchs qui sont pliés. On poursuit.
Et Gala, attention, juste parce qu'ils avaient gagné 3-0 contre la Juve, 5-2 contre la Juve à domicile en 16e et ils ont eu très chaud au retour. Oui. Donc là, un à Anfield, faudra faire un autre match que ce qu'ils ont fait au Juventus Stadium.
Ah oui, là, à Anfield, dès le début, on va mettre le bouillon.
Non, mais quand même, en fait, on sait tous que les entraîneurs de nos jeux, en fait, il y a les vidéos et tout ça, donc le football a beaucoup évolué. Là, ils peuvent vraiment apprendre de leurs erreurs. Tu dis que voilà, en fait, là, tu as
la rêve. Après, c'est plus la même position.
C'est pas la même
position.
Ouais, là, quand tu es galvanisé, tu joues à domicile. On a toujours dit que Galatasaray à domicile,
ils sont jouables. Comme les Castrelles, c'est fort.
Voilà, c'est très, très
puis là, Anfield, il suffit d'un but, t'es déjà dans la merde. C'est 1-0, 1-0, t'es égalité. C'est fini.
Donc, parce qu'il y aura la pression. En plus,
tu sais que même à la 90+5, ils peuvent en mettre un. On joue
le deuxième homme.
C'est pour ça que déjà, t'arrives, tu peux pas te dire, faut que je défende. Donc quand t'arrives là-bas et que t'ouvres le jeu, après.
Et mentalement, faut qu'ils le prennent différemment. Parce que contre la Juve, ils maîtrisaient leur écart. Ils étaient en mode, faut qu'on reste derrière. On va pas aller. Là, faut qu'ils y aillent pour marquer des buts, en fait. Pour se dire, on va faire 2-0. Ou on va.
Faut qu'ils se disent, il y a 0-0.
Exactement. Faut qu'on ait gagné le match. Exactement.
On va poursuivre Newcastle qui ont dominé le FC Barcelone mais n'ont pas gagné. Hein.
Oui.
1-0, 1 partout. Partout avec Barcelone un but de Yamal en fin de match. Attends, check, juste, on va revenir après. Jason, qu'est-ce que tu en as pensé
Franchement, déçu du Barça. Je m'attendais à beaucoup mieux. Une grosse équipe de Newcastle. Bon, on s'attendait, de toute façon, dans les terrains anglais, à domicile, grosse intensité. De toute façon, Newcastle, je pense que la qualif fallait qu'il la cherche aussi chez eux. Après, ils peuvent faire un coup. Au Camp Nou, mais je pense que ça va être compliqué. Mais sur ce match, le pénalty, en plus, il est tiré par les cheveux, tu vois, c'est à la fin.
Encore un qui se voit favori. Bah,
au-dessus, en plus, c'est au-dessus du temps additionnel. On venait de dépasser de 30 secondes à peu près, ouais, ça, je crois, c'est à 45, un truc comme ça. Ouais.
Même le défenseur, il se dit, c'est pas possible.
C'est frustrant pour Pape Thiaw, en plus, qui avait fait un bon match. Qui a fait.
T'as dépassé parce qu'il y a un changement de Newcastle à 91.
De toute façon, c'est le.
Oui, bien sûr. Mais tu sais qu'il y en a, ils ne laissent pas 40 secondes en plus, tu vois. Il y en a, ils ne le laissent pas.
Après, ils peuvent, puisqu'on est toujours cette temps additionnel minimum, toujours. Mais effectivement, c'est frustrant.
C'est pour ça que j'aime pas les coachs, moi, qui ont un bon résultat et font un changement dans le temps additionnel. Arrête, laisse comme ça et puis prie pour que ça passe.
Garde ton équipe, bah ouais, c'est clair.
En tout cas, un but partout pour vous, Newcastle, peuvent jouer.
Jouer la qualif.
Moi je dis oui.
Moi je pourrais dire voilà les Magpies vraiment ils ont tout ils ont toutes les cartes en main hein, parce que certes on a vu un Barcelone peut-être ce week-end voilà un peu séduisant un peu reluisant avec Séville qui n'était pas vraiment dans le sujet mais je crois que les Magpies vraiment ils ont tout vraiment pour aller chercher la qualif même je crois que même douter parce que ce Barça qu'on a vu face à
je pense que ça va être dur hein.
Ouais face à Newcastle
ils sont imprévisibles Newcastle
et puis Newcastle c'est l'équipe qui est un peu à l'ancienne là-dessus c'est qu'ils ont un visage totalement différent à domicile et à l'extérieur
c'est souvent
catastrophique à domicile ils ont un terrain qui est très spécial avec la petite pente là le petit terrain à l'anglaise et donc il y a tout du traquenard quand tu vas là-bas. Mais à l'extérieur, moi, j'ai du mal à les voir à aller s'imposer au Camp Nou.
Je trouve imprévisible.
Et même 1-0, pour moi, ça ne suffisait pas. Il fallait qu'ils mettent un +2 ou +3 sur le match aller pour taper le Barça. Là, le Barça au Camp Nou, sur leur grand terrain, quand ça va élargir sur les côtés, les espaces qu'il va y avoir derrière.
Ouais, après, tu vois les efforts qu'ils ont fournis à Newcastle, s'ils
ne pourront pas faire pareil au Camp Nou. Je pense qu'ils ne pourront pas.
Après, là où ils peuvent faire la différence, c'est qu'ils
font un gros match ce week-end.
Ouais, je sais.
Demain, ils ont des mecs qui vont vite. Ouais. Ouais, c'est ça qui peut faire la différence parce que
en transition,
vu la défense du Barça,
Gordon et Langa,
tout ça, c'est des gens.
J'ai pas compris pourquoi Gordon n'était pas titulaire.
Bah, des fois, il est pas titulaire, ça arrive,
ouais.
Il le fait. Hein,
ouais, ouais, je vois, mais en fait, je comprends pas en vue de la continuité du truc. J'ai pas
alors
compris.
Que, ouais, en ce moment, c'est ouais, lui qui marque.
Il a quadruplé il y a pas longtemps.
Moi, je sais pas, il y a Johan Huissa, bon, même s'il peine à se mettre en place, Johan Huissa.
Elle a jamais vraiment commencé sa saison à Huissa, donc c'est compliqué de le faire rentrer maintenant.
C'est sûr, mais Johan Huissa, pour moi, il lui faut du temps parce que si c'est. Parce qu'au top de leur forme, je pense que Johan Huissa discute ni avec Voltemade ni Osula. ni
après pour le, moi, le pour truc moi, c'est que Voltomadeu il déçoit
ouais mais exactement il déçoit
mais il a des qualités Voltomadeu
il a des qualités et il a un profil tellement
mais je dis pas qu'il a pas de
tellement atypique
mais Anuissa c'est un tueur les gars
c'est un très bon joueur mais moi je pense que les deux ensemble tu vois
c'est un très bon joueur mais à ce niveau là j'ai jamais vu
en sélection
à ce niveau là j'ai jamais vu moi j'ai en tout cas 8e des champions je sais pas ce qu'il vaut
mais dans les gros matchs de PL oui mais dans les gros matchs de PL avec Brentford on a
avec Brentford
oui mais c'est pas pareil on a vu qu'il est présent et pas que en fait quand tu le vois après avec le Congo jouer d'autres nations où ils sont pas favoris et tu vois qu'il fait la différence et il marque chaque
ah même là avec match, Newcastle son dis, retour il a été performant
ouais,
au début
son
hein.
retour au début il commence à mettre des buts après en fait il va jouer un match après il joue un bout de match
mais après il a pas vraiment une grosse préparation donc oui, aussi, il a peut-être un petit creux aussi
mais pour moi c'est pas pareil de jouer quand t'es attaquant à Brentford et que tu sais que les gros ils vont venir chez toi et que tu vas avoir des espaces parce que tu vas jouer que des contres et tu vas avoir des ballons etc
c'est sûr.
Alors que quand tu joues dans une équipe un peu meilleure t'as moins d'espace, c'est un peu plus compliqué.
Bah, Newcastle, ça joue comme ça. Newcastle, ça joue comme
ouais,
ça.
Ça joue comme ça, c'est vrai. Mais
il y a un gap de niveau,
c'est
etc.
C'est une équipe de frontière,
faut assumer,
un peu Newcastle,
bien sûr,
c'est un peu
sûr.
Une équipe entre deux. Mais si t'arrives à taper le top niveau, bah, t'auras moins ces ballons-là, ça va être un peu plus dur.
En tout cas, on verra ça demain, hein, il me semble.
Ouais.
Demain,
oui,
tout
ouais.
simplement. On va poursuivre. Bodø/Glimt qui sont imposés face à Sporting, comme on disait, 3-0. Pas grand chose à dire, hein. Bodø/Glimt ont fait le travail.
Alors,
ils ont déjà
mérité,
mis
hein.
un pied en quart de finale et ils auront juste à confirmer à Lisbonne.
Et avec la manière, on peut le dire en plus.
Ouais,
hein,
avec la manière.
Le
ouais.
début dans le jeu magnifique, les intentions,
comme
elles sont là.
Comme d'habitude, j'ai envie de te dire en fait.
Mais moi en fait, je les ai plus ou moins découverts l'an dernier avec leur parcours en Europa League et on a l'impression qu'ils ont la même facilité. Ça veut dire qu'ils jouent face à des clubs qui vont être archi favoris contre eux et quand ils sont à domicile, ils ont leur plan de jeu. Ils vont pas en déroger. Ils vont réussir à proposer le football qu'ils veulent proposer et ça fait des résultats qui sont spectaculaires franchement.
Bah après de toute façon il y a Berg qui avait fait une interview là, il avait dit l'avantage qu'on a c'est qu'on joue sur un synthétique et que tout va beaucoup plus vite et que les autres clubs n'ont pas l'habitude et qu'ils ont l'habitude de jouer que sur des pelouses. Et il a dit donc on sait très bien qu'on a un avantage à la maison et c'est ce qui se passe que ce soit City ou n'importe qui. Comme eux ils ont des cheminements habitués à jouer sur des synthés, ils font tout beaucoup plus vite. Donc le temps de réaction des autres, même sur les défenseurs, ça va trop vite. Ça fuse. Ouais. Mais c'était à l'époque Lorient quand ils étaient forts aussi à la maison, c'était ça aussi le moustoir là quand il y avait avant qu'ils enlèvent le synthétique.
Oui, avec Gamero,
tout
machin.
Ça. Que des petits vifs. En plus ils prenaient que des petits gabarits parce que sur le synthétique tout.
Ouais, les pieds d'appui,
ça fait que pleuvoir là-bas. Donc c'est à dire quand ça fuse, alors, quand t'arrives dessus, t'as même pas le temps de poser le pied par terre qu'il y a déjà 2-3 joueurs qui sont passés.
Mais je crois qu'il y a le climat aussi qui est un peu défavorable.
Ah, ben oui, ben c'est ça.
Il fait froid.
Les pays scandinaves aussi, voilà. Quand tu arrives déjà,
c'est
pas.
C'est mi-mars, donc là, c'est catastrophique quand tu y allais en décembre ou en janvier. Là, il y a les mi-mars, tu arrives sur des températures.
Mais je crois que.
Ils ont l'habitude, quoi.
Même avec le climat, ils arrivent à 0 tous les grands.
C'est au-dessus de 0 à peine, je crois, ça reste.
Ouais, mais 0-1.
C'est pas moins 20, quoi.
Je veux dire, les Anglais, ils ont l'habitude de jouer à 0-1 tout l'hiver en Angleterre, tu vois.
Mais t'as vu là, même Bodø, match de championnat, est décalé.
Portugais un peu moins, ouais.
Pareil.
Après, eux. On peut le comprendre.
Ah oui, parce que c'est historique.
On peut totalement le comprendre.
Pour un club de chez eux.
Ah oui, c'est un pays.
Est-ce qu'il y a une équipe norvégienne qui a déjà fait ça?
Rosenborg à l'époque, mais peut-être pas Kar. Peut-être pas Kar, peut-être 8e.
Mais pas en fait, c'est-à-dire même Rosenborg, ils n'avaient pas en fait, comme on a dit, ils n'avaient pas cette continuité en fait. C'est-à-dire aligner les grands, faire des gros matchs comme là, Bodø, ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'ils
fêtent les grands. C'est vrai, mais pendant une décennie, ils ont été en Coupe d'Europe tous les ans.
Oui, ils ont été en Coupe d'Europe parce qu'ils ont été réguliers. Mais Bodø, là, on te parle d'une saison où tu te fais City.
Saison de rêve pour l'Inter Milan.
Tu te fais l'Atletico, tu te fais l'Inter de Milan. Donc tu t'imagines que là, tu te fais le Sporting. Donc c'est-à-dire, tu t'ouvres une brèche vraiment. Et quand on regarde les tableaux, voilà, ils sont en train de s'ouvrir une brèche pour aller en fait. Pourquoi pas, moi je les vois vraiment peut-être réussir les cas. Hein, parce que là, ils mettent tous les moyens. C'est une équipe où il n'y a pas de stars. C'est le collectif qui prime. Et dans ce genre de groupe, ils arrivent à toujours à donner le meilleur.
Toujours trouver une solution en plus.
Voilà, parce qu'il y a un collectif qui est là.
On ne dépend pas d'un joueur, ouais, voilà. Tout à fait.
On va poursuivre, messieurs. Le Bayern Munich, qui ont tout simplement giflé l'Atalanta 6-1. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pas grand-chose à dire.
Olise exceptionnel. Non,
ouais, il a déroulé vraiment.
Il y avait 5 classes d'écart. Juste le gardien.
C'est
Bayern
pas le
n'a
même
plus
niveau.
De
gardien.
Leurs 4 gardiens sont blessés, donc je sais pas qui vont faire jouer. Peut-être un U17 ou un U19. Là.
Bon, mais après, ils ont un écart assez conséquent.
Oui,
pour,
là, même, globalement, même s'ils mettent un joueur au but, je pense que ça le fait pour le 6-1.
Mais pour le tout d'après, c'est là il va falloir se poser la bonne
alors,
question.
Qui va revenir,
mais je crois qu'il y en a qui vont revenir parce qu'il y a la trêve entre temps, la trêve internationale.
Il y a la trêve entre temps, mais est-ce qu'ils vont revenir dans les meilleures conditions? Est-ce qu'on connaît
qu'ils ne soient pas en bonne condition ou pas, tu le mets au cage.
C'est le Bayern.
Tu n'as pas le choix.
T'as pas Mécano devant, ça
et
va
là,
aller.
Vraiment, si le Real se qualifie, je crois qu'il est impossible Real Bayern.
C'est ça.
En quart, ouais, c'est ça.
Ça promet un putain rare sont les fois où le Real réussit au Real.
Au moins un choc en quart de finale, parce que sinon les autres...
Surtout c'est j'ai Liverpool si t'as.
Si, mais je veux dire, voilà, exactement. Mais sinon les autres, de l'autre côté de partie de tableau, la partie Europa League...
Barça Atlético.
Ouais, ouais.
Ah, c'est un gros match. Hein.
Ah, non, mais moi,
c'est pas un choc, mais c'est.
En enfin,
c'est
quand même... ça reste un choc.
Ah,
ça reste
un choc. Gros match. Franchement, c'est un gros match.
C'est un choc. En vue de ce que l'Atletico en plus ont
bah
fait
oui,
au Bayern,
franchement, c'est un
au Barça,
gros match.
Il y a pas longtemps, ça reste un choc. Non, ah, je vous le dis, ça reste un choc.
Parce que l'Atletico,
et l'Atletico
les sortir.
Ils les ont déjà sortis en Ligue des Champions. Donc,
ouais,
ça
peut être la saison 2016.
Ça peut être
la saison 2016 où ils arrivent en finale.
La finale du Real, c'est ça.
Franchement, l'Atletico, ça peut être l'équipe surprise.
Mais. Rares sont les fois où ils arrivent au bout, mais ils gagnent pas
plus,
le titre.
En demi, tu joueras pas un monstre non plus. Tu joueras soit Bodo, soit
Arsenal et Leverkusen,
soit Arsenal.
Ouais, Arsenal, c'est jouable.
C'est jouable. Jouable. C'est si tu me dis que l'Atlético fait finale de Ligue des Champions, je suis pas choqué, je tombe pas de ma chaise.
En tout cas, voilà pour la Ligue des Champions. Non,
non, le Real quand même.
Ah oui.
Quand même.
Tu peux pas, quand même.
Après la presta de Valverde.
C'est log, quand même.
Est-ce qu'on va revenir sur ce débat de le Real est-il meilleur sans Mbappé ou pas?
On va, bon. Attendez, avant, ouais, on a oublié aussi
Tottenham.
Bon, Arsenal, ouais. Leverkusen, on a parlé. Ouais.
Wow.
On
a parlé.
Tottenham, Atletico, mais
Atletico,
y a rien à dire.
Atletico, Tottenham,
Tottenham,
3 buts offerts, 2 buts par le gardien qui sort. Igor Tudor qui a fait un choix fort.
Moi, je comprends
en choisissant
ce choix.
Son gardien.
Moi, je comprends ce choix.
Non, mais il l'a choisi. Non, mais il l'a choisi. Déjà, est-ce que tu comprends ce choix-là?
Ça, après,
parce que c'est pas le gardien titulaire.
Je peux pas te dire.
Voilà, mais c'est pas le gardien titulaire. Il choisit ce gardien-là et.
Et par contre, je comprends le choix de le sortir en fait. C'est que le mec, il te coûte 2 buts en un quart d'heure. Tu vas pas, t'es en Ligue des Champions, c'est pas le tournoi interquartier avec tes potes. Tu vois, t'es là, c'est un truc sérieux. Donc en fait, le mec, il te coûte 2 buts en 15 minutes. Derrière, il peut prendre un rouge, il peut t'en reprendre un. On n'est pas, tu vois, tu fais pas de. Tu
fais pas de
sentiment.
De la FSGT,
là, il y a pas de sentiment. Là, tu joues de la Ligue des Champions, c'est la plus haute compétition de club au monde. Là, tu es obligé. T'es obligé de le sortir.
Bon. Par contre, pour moi, c'est révélateur d'un dysfonctionnement qui est global sur le club de Tottenham et surtout, c'est. Ces clubs qui ramènent un entraîneur à 3 mois de la fin de saison, ça veut dire qu'il arrive, il a encore des gros matchs à jouer, il connaît pas son effectif, et tu peux tenter des coups comme ça et les rater. Et en fait, plus c'est instable, plus ça a de chance d'arriver. Et pour moi, Tottenham, c'est quoi? C'est leur 3e coach de l'année, là?
Ouais, c'est ça.
Thomas Frank, avant, il y avait... En Postecoglou.
Non.
Oui, non, ça. Thomas Frank, il a commencé dès le début de saison.
Saison,
oui, parce qu'il a fait le match contre le PSG.
Ouais, ah bah oui, t'as raison.
Non, ouais, c'était oui, mais c'est
mais
le deuxième.
Je crois que ouais, comme on dit, vous voyez que l'Espace aussi, comme on dit, là ils sont déjà mal classés en Première Ligue. Je crois que ouais, peut-être c'est à l'entraînement, peut-être qu'il a montré de bonnes choses.
Ouais, ça doit être ça.
Voilà, parce que généralement ce genre de match, ça se joue à l'entraînement. Peut-être
et
la semaine d'entraînement.
Vicario devant, c'est pas Neuer non plus.
La semaine d'entraînement.
On le voit hier encore sur le coup François Boslay.
La semaine d'entraînement, c'est lui qui abode le match.
Totalement.
Peut-être si tu montes des belles choses à l'entraînement.
Après, oui, il a tenté parce que s'il fait un top match, on va dire que le gardien, tatati, tatata. Tu vois, ça peut aller dans les deux sens.
Et puis le mec, il vient pas de nulle part. Il a joué à Prague avant, donc il a déjà joué de la Coupe d'Europe, etc. Enfin, c'est quand même un vrai gardien, quoi. C'est pas.
Aussi, il faut compter qu'il est face à une hécatombe. En défense, dans tout son effectif, c'est du jamais vu. Mais on va poursuivre.
Il y a pas mal de blessés.
Le Real Madrid qui se sont imposés face à Manchester City, 3-0.
Le Real Valverde, tu veux dire?
À Santiago Bernabéu. Parce qu'on le disait à Santiago Bernabéu, et la semaine dernière, on disait. Non, moi je vois City s'imposer. C'est pas comme s'il l'avait pas déjà fait. C'est ce que Jason tu disais la semaine dernière. Et là, moi j'ai précisé Santiago Bernabéu. Attention, parce que c'est des fois la Casablanca où il y a les.
Oui, effectivement. Mais après, je pense qu'il y a
magie,
pas beaucoup de personnes qui pensaient que le Real allait gagner ce soir-là.
Ah, et surtout pas.
Moi,
tu supportes l'équipe, oui.
Moi, je me disais que, ouais, avec le Real, en fait, avec le Real.
Mais toi, tu dis ça à tous les matchs. Arsenal, l'année dernière, 3-0, tu dis, ouais, ils vont le faire.
Oui, mais tout peut arriver, en fait.
Mais d'un moment, ça passe.
Bah oui, tout peut arriver. Tout peut arriver parce qu'en fait.
Mais ça, c'est vrai pour tout.
Parce que le Real nous est déjà habitué à cette sensation forte où déjà, on croyait qu'au match aller, tout était plié. Mais quand il s'arrive au Bernabéu jusqu'à Arsenal.
Mais là, c'était le match aller, là, justement.
Oui, mais en fait, là, je me suis dit que vraiment, le Real, on a vu vraiment que sans Kylian Mbappé. Qu'il y ait des cadres qui ont pris les responsabilités. Et on a vu que sans Kylian Mbappé.
Et sans Bellingham. Et sans Bellingham. Parce que je pense que ça compte aussi dans l'expression collective.
Parce que Rodrigo contre Manchester City,
c'est
Ronaldinho.
Il y aura eu 5-0.
Je crois qu'à vraiment, il a reçu un coup tactique en faisant confiance aux jeunes. Quand on regarde vraiment la performance de Thiago Pitache, c'est que Valverde, il arrive à avoir toute cette aisance sur le côté. Parce que derrière, il y a quelqu'un qui couvre. Aussi, vraiment.
Et Valverde qui joue à un poste qu'il ne supporte pas. et pour lequel sa femme faisait des stories en disant mon mari n'est pas un ailier, il ne doit pas jouer sur le côté. C'est mais un je crois
Et là, moi, je crois que c'est le poste vraiment, c'est le poste vraiment qui lui va mieux.
Mais bien sûr, parce qu'il n'a pas la justesse technique pour jouer au milieu du terrain.
Il avec deux créateurs, si. Quand il y avait Kroos, Modric, Valverde, pour moi, c'était archi complémentaire.
Mais Kroos, Modric,
parce que Kroos et Modric ne courent pas. Non, il faut un mec qui court après.
Avec leur créativité, ils vont lancer dans les bons intervalles et tout. Donc pour moi, avec des joueurs comme ça, c'est bon. Effectivement, c'est pour ça qu'on le dit souvent ici. Pour moi, l'effectif du Real, il n'est pas forcément très bien construit. Par contre, pour moi, Valverde, il est super précieux parce qu'en fait, il est bon partout.
Mais il peut pas être débrouillard du jeu. Il peut pas être débrouillard du jeu.
C'est pas son rôle, c'est pas ce qu'on lui demande.
C'est
pas son profil de joueur, etc. C'est un joueur qui va faire beaucoup de pressing. Après, il a aussi des qualités.
Il va faire les pauses qu'il faut.
Exactement. Après, il a des qualités qui se sont vues sur ses buts qu'il a mis en plus et qui sont un peu sous-estimées. Par exemple, c'est pas un grand technicien, mais il est très fiable techniquement.
Bien sûr, c'est un mec dans ses courses de balle, etc. 6 sur 10 partout.
Ah non, pour moi,
7 sur 10.
Non, parce que pour moi, impact
du jeu 10. Non,
je peux pas le
mettre techniquement.
Je peux pas le mettre
techniquement. Je peux pas le mettre.
La frappe au-dessus.
Non,
techniquement, les gars, doucement.
Techniquement, je le mets 8. Non, je le mets 8. Mais là, regardez son 3ème but. Je le mets 8. Mais regardez même son week-end, son but.
Oui, mais regarde sa saison aussi. Parce que, d'accord,
regarde
sa saison.
Après,
quand il te parle de
technique. Excusez-moi, messieurs, pas en même temps, sinon ça devient inaudible.
Après, quand il te parle de technique, il te parle pas de frappe de balle. On sait très bien qu'il a une grosse frappe de balle.
Je te parle de l'enchaînement contre le passe, de la manière de t'orienter quand tu reçois le ballon.
De sortir du pressing, protéger ton ballon.
Quand on regarde les stats, Valverde, c'est l'un des joueurs qui réussit beaucoup ses passes. Moi je comprends qu'il parle en fait
parce qu'ils sont pas risqués, non, en fait, ça veut rien dire.
Moi je comprends ce dont il parle. Il parle de peut-être son esprit créatif, peut-être ce joueur, bon, là c'est pas ce joueur, peut-être avec une passe ou deux passes, il n'a pas vraiment la qualité technique de Modric ou Toni Kroos. Ouais, ça on va pas y remédier, mais Valverde, qu'on le veuille ou pas, en fait Valverde c'est un joueur, en fait il est complet.
Techniquement, effectivement, il n'est pas aussi fin que Modric ou Kroos, mais ça n'empêche pas d'être un excellent joueur et il l'a montré.
Bah oui, après, personne n'a dit le contraire. Personne n'a dit qu'il n'était pas technique.
Non, c'est un excellent joueur et là, il a touché le ciel, il faut se le dire aussi. C'est des matchs comme ça dans une carrière où chacun en a 5, 6, 7 en fonction de ta.
Non, parce que sur les dernières épopées du Real avec des champions, il est archi précieux aussi.
Bien sûr, mais un match comme ça, là.
Un match, il y a eu tout sur ce match-là.
En mettre 3, c'est des matchs, c'est Thuram en 98, c'est Valverde là, il y en a qui des doublés, des triplés comme ça, tu sais pas trop comment parce que il y a le. C'est le bonsoir, c'est comme ça. Mais après, Valverde, il faut aussi prendre en compte sa saison. Et moi, sa saison, globalement,
c'est la moins bonne quasiment depuis qu'il est
là. C'est la moins bonne. Elle est décevante parce que j'attendais de lui qu'il prenne les clés un peu de cette équipe-là.
Il n'était pas dans le bon cadre, dans le bon tempo. Parce que là, quand Xabi Alonso part et qu'Abeluel arrive, en fait, il a une discussion avec les cadres. Au début, il est décrit, il est critiqué.
Bien sûr, c'est lui qui a fait sauter Xabi Alonso.
On nous dit que voilà, mais en fait, à un moment donné, il prend ses responsabilités, des capitales, il montre l'exemple. En fait, Valverde, quoi qu'on le dise, s'il n'est pas mis dans les conditions requises, il ne peut pas démontrer le football. On sait tous que voilà, peut-être qu'avec Xabi Alonso, peut-être quand tu le faisais jouer sur le côté ou latéral droit, mais est-ce que vraiment le schéma tactique lui convenait?
Mais parce que c'était le bien pour l'équipe en fait de jouer latéral droit à ce moment-là.
C'est un couteau suisse, faut forcément le mettre.
Il jouait milieu de terrain, il était catastrophique.
Merci.
Voilà. Son meilleur poste était latéral. Fallait qu'il court, qu'il se mette à droite, c'est tout. Point barre.
Et lui, je suis désolé, il veut jouer milieu de terrain dans l'axe. Pour moi, c'est pas là où il est le meilleur. Il est meilleur quand il a le couteau noir. Et même, j'ajouterais même, à mon avis, dans un 3-5-2 côté droit, il serait exceptionnel. Ou alors latéral comme Hakimi, très offensif, parce que en fait, il a ses qualités.
Comme j'ai dit, c'est au milieu de terrain, mais avec les joueurs dont je t'ai dit. Avec des joueurs techniques créatifs.
Mais il y en a combien qui sont bons s'ils jouent avec Modric et Kroos?
Non, là vraiment.
En fait, même,
je parle de profil plus que de.
Tu vois, ils ont joué avec eux.
Mais pour moi, s'ils jouent. Il est trop fort aussi, tu vois. Mais un joueur technique, je sais pas, si je joue avec Vermeeren, pour moi, il serait bon, tu vois.
Oui, je vois
avec
Vermeeren
en 6 et un autre joueur. Mais exactement.
Dans le profil où lui, il avale les mettre et il fait le.
Il avale les mettre, il compense, il fait la bonne passe au bon moment. Et tactiquement, c'est ultra. C'est carré, quoi. Il n'y a pas d'erreur, il va pas oublier un replacement, etc.
Il va pas abuser
d'un truc, partout. Et en plus, il a une grosse frappe. Attends, mais c'est un bonheur. Quand t'as des joueurs techniques, avoir ça pour. Mais effectivement, là, c'est ce qu'on dit. C'est
plus. Il n'y a pas que Valverde. Le milieu du Real Madrid n'est pas créatif. Il n'y a pas que Valverde.
Ça, c'est le problème.
Pour prendre le prisme un peu City, j'ai pas du tout aimé leur match, en fait.
Encore Guardiola qui se plante.
J'ai pas compris. Guardiola, il s'est planté. Le fait de pas mettre Cherki dès le départ. Je comprends pas.
Toute l'Angleterre est choquée.
C'est bizarre. C'est bizarre.
Aurélie, tu le mets défenseur, or que tu sais qu'il est pas bon en défense.
Il nous refait du
Guardiola. Dernièrement, il te met doublé plus un but encore en le mettant.
Magui qui a jamais joué des matchs de Ligue des Champions, qui était vraiment, je crois pas, abasourdi. Qui était vraiment spectateur.
Oui, mais après, Gueye,
il le dit dans la presse.
Mais Gueye, il est rentré en tant que titulaire depuis un petit moment dans le cadre de City. Donc,
dès qu'il est arrivé,
c'est normal qu'il joue. Ça, y a pas de souci. Mais c'est le problème que Guardiola. À chaque fois qu'on arrive en Ligue des Champions, dans des tours où il doit se montrer, eh bien, il nous crée encore des choses bizarres. Et ça, il aime trop répéter ça. C'est plus fort que lui, j'ai l'impression.
Surtout avec City.
Voilà, il,
avec
a, City, il fait... a ce besoin de changer à chaque fois. Il a ce besoin. Et, puis même... et il se fait à chaque fois taper sur les doigts. Mais il va recommencer.
Et dans la lecture du match,
il y avait déjà un Real Madrid qui était plus fort que lui. Hein. Genre, ouais, je crois.
De quoi on parle
là, sur le match, le Real, c'était mieux que City.
Oui, mais quand tu entames le match, tu te dis que City a des arguments quand même.
Bah, oui.
Par rapport à la saison qu'ils sont en train de faire, par rapport à la saison que le Real est en train de faire.
Surtout,
parce que, attention, là...
c'est pas un grand City non plus. Hein.
C'est pas un grand City du tout. Mais on a cette analyse-là. Mais il y a une semaine, tu me demandes de juger la saison du Real. Je te dis que c'est catastrophique en fait.
Oui,
ça sent d'une défaite.
Surtout avec les absents, je te dis.
Ça sent d'une défaite
pas
en Liga. Tu vois, Mbappé, on dira peut-être fin de saison. Défaite en coupe face à Albacete. Tu dis, mais c'est quoi cette saison? Et là, aujourd'hui, on a totalement le discours inverse. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait encore le discours inverse dans une semaine. Mais
non,
c'est pour
verra,
ça que c'est très dur
à
analyser.
Tout va dépendre de ce qu'ils font dans leur parcours.
Mais moi, City, la manière dont ils ont entamé le match et surtout la manière dont tu réagis en fonction des aléas de jeu qui me dérange. Parce que tu vois que tu es mené 1-0 et tu vois que ça va être un peu compliqué, que ça va être bizarre. Rien ne t'empêche de. Aussi, baisser ton bloc un peu, fermer et dire, écoute, si on perd d'un but ce soir, rien n'est fini, on est encore dans le match. Là, tu vas en prendre 3, c'est terminé, c'est plié.
J'ai même allé plus loin que toi. Je comprends pas Guardiola des fois parce qu'il arrive à se renier. Par exemple, Donnarumma à Lente, des joueurs sur lesquels il s'est renié. Mais des fois, dans le jeu, comme tu dis, il va vouloir être jusqu'au boutiste alors que le jeu lui dicte d'un petit peu s'adapter. Et en fait, il ne veut pas. Et donc, il a su se renier sur des joueurs. Mais des fois, tactiquement, il veut absolument faire son truc à lui. C'est assez incompréhensible. Et effectivement, comme.
Après, c'est parce qu'il a changé, disais, Jason, il a changé ses plans de jeu. C'est que maintenant, il joue que sur de la transition.
Oui.
Il met que des flèches.
Oui.
En fait, avant,
parce qu'à l'époque, c'était du football.
Voilà, il mettait que des mecs techniques.
C'est pour ça qu'il est en train de gâcher Marmouche. Je suis tout à fait d'accord.
Et depuis qu'Haaland n'existe plus.
Est-ce qu'on peut dire que Pep Guardiola est un coach surcoté, lui, qui a gagné
non.
une Ligue des
Champions.
Non,
il n'est pas
surcoté. Sur les 10 dernières années,
non,
c'est
il est
une
pas
Ligue
surcoté,
des Champions.
Il n'est pas surcoté. Oui, parce qu'on
en ayant le grand Bayern.
Il ne faut pas oublier ses anciens City, quand même. Il ne faut pas oublier son ancien City.
Même
quand
si
tout le monde
pas...
prenait exemple sur lui. Mais c'est...
En dépensant plus de...
Des milliards.
Oui,
mais après, beaucoup de grosses équipes dépensent. À ce niveau-là, le top 4-5 euros, c'est
plus immense. Oui, mais lui, c'est plus de 200 millions par saison.
Il a battu tous les records sur les défenseurs, plus d'années d'affilée.
Après, c'est que dans les années d'aujourd'hui, je pense qu'il est dépassé. En fait, il veut s'adapter au football d'aujourd'hui en mettant des mecs de transition, tu vois, comme des Doku, des Savigno. Tu as des mecs qui courent vite, qui ont très peu de stats.
Tu penses qu'il ne sait pas les utiliser?
Qu'ils les utilisent mal, je pense.
Okay, c'est possible.
Et moi, j'ai du mal avec les coachs qui sont trop.
Et je crois que la transition, déjà, elle n'est pas faite pour Guardiola.
Mais non, parce que c'est pas son football de base.
Ouais, moi, je crois que la transition, elle n'est pas faite pour lui. Il faudrait qu'il revienne au Guardiola qu'on a connu avec ce jeu de possession.
Ouais,
même
mais c'est
pas
possible aujourd'hui.
Ouais.
En 2026, c'est plus possible avec les pressings que tu as, avec les athlètes que tu as en face. Tu peux plus se mettre ce football-là.
Il n'y aura jamais un milieu Busquets, Xavi, Iniesta,
Busquets, c'est impossible.
Mais il peut les créer quand même.
Mais non.
Ça voudrait dire avoir trois pédris. Busquets, c'est Guardiola qui le lance dans le grand bain. Sinon, on ne le connaît pas.
Oui, parce qu'il existait quand même, Busquets.
Oui, mais il n'avait pas, en fait. C'était pas quelqu'un qui avait fait déjà des classes. C'est qu'il était à la Masia.
Mais sauf que maintenant, il a créé comment des Busquets depuis. Il les a plus. Hein. Il a eu le bon mec au bon moment aussi.
Tu ne vas pas prendre Casado en disant, tiens, tu vas être Busquets. C'est pas Busquets, c'est Casado. Donc, ça va être compliqué.
Messieurs, du coup, est-ce que vous pensez que. Vinicius hein, qui loupe son penalty, hein, ça pouvait vraiment être la fin. Voilà, ça pouvait vraiment être la fin en mettant ce quatrième but là. Il aurait pu vraiment.
Ouais, c'est le sort des City.
Après, pour sa défense, il la propose à Valverde, ce que je trouve bien, parce que Valverde dans un soir de chauffe comme ça, faut lui proposer. Puis Valverde a une bonne frappe.
Valverde a refusé.
Il aurait mis marmite.
Bah, il aurait dû la prendre.
Mais après, donc Vinicius l'a tiré et c'est bien, mais il faut qu'il arrête de tirer les pénaux en vrai. Il sait pas le faire, c'est comme ça, c'est pas grave. Chacun sa spécialité, chacun ses qualités. Lui ne sait pas tirer les pénalties de manière fiable. Donc il faut qu'il arrête et que quelqu'un d'autre le fasse.
Ça reste un joueur confirmé du Real. Donc il y aura pénalty. S'il peut prendre, il prendra. Quitte à rater 20 pénalties, il prendra quand même.
À l'absence de Mbappé, c'est lui qui va la tirer. Hein.
Non, il faut choisir tes matchs. Là, c'est pas problématique. Il peut réessayer. Il en mettra des pénalties, Vinicius. C'est juste que
pour l'instant, c'est pas problématique. Après, moi, j'y crois pas.
Elle en avait mis deux juste avant.
Si jamais tu perds 4-1 et que City gagne au tir au but, tu vas t'en souvenir ce pénalty-là. Tu vois. Mais bon, je pense que ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. Mais voilà, faut pas jouer avec le feu quand même.
Il dit ça n'arrivera pas.
Non, ça n'arrivera pas. Moi, je crois pas une seconde. Après,
que City renverse la.
Que City renverse, j'y crois
avec
pas.
Avec le football d'aujourd'hui, on ne sait pas.
Ouais, vraiment. Non, moi, je crois pas. Peut-être avec ce Real, ce qu'ils ont.
C'est sûr que tu crois pas.
Non, non. Après, lui.
Ça m'aurait étonné.
Après, je peux supporter. Après, je peux souhaiter, mais je sais que quand le Real n'est pas bon, parce que ouais, mais là, vraiment, avec cette série qu'ils sont en train de démonter, et on montre que Xabi Alonso, plutôt Abella, plutôt, il nous montre que qu'il fait confiance aux jeunes. Là, il était tout content de savoir que ces jeunes ont pu vraiment jouer en équipe première.
Il fait un bon match. Hein. Il a failli nous coûter
ouais,
un petit but.
Ouais, il a failli,
mais,
ouais.
Mais il a fait un bon match.
Sur le reste,
ouais,
bon,
lui, vraiment. Et moi, ma satisfaction, ça a été Thiago Pitache. Parce qu'il y a quelques, jours, je ne connaissais pas ce gars.
C'est de lui qu'on parle personne.
Ouais, quand il arrive, mais grosse satisfaction déjà. Son match avec City, il fait le match qu'il faut. Voilà, il se mélange pas les bottes, il sait pas en fait.
Mais Thibaut Courtois, arrêtons le débat, hein, c'est le meilleur gardien du
monde.
Non,
ah bah oui, bah si, de toute façon, il y a qui devant lui.
Il n'y a jamais eu de débat.
Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat.
Il y a avec qui, il y a qui devant lui depuis des années.
Déjà, son jeu au pied.
Non, même de
son
la
jeu au pied, son jeu au pied, vraiment, il s'est amélioré. Son jeu au pied s'est amélioré. Parce qu'il y a quelques années, on ne voyait pas un type beaucoup de
temps. Il y a une saison de Dortmund aussi à Chelsea.
Pour moi, mais année 2020.
Quand il prend avec des champions, mais c'est tout.
Ouais, mais année 2020, pour moi, c'est.
Même
Courtois.
Depuis 18, même depuis.
Non, mais si tu veux en revenir, si on parle par décennie, pour moi, le gardien de la décennie, c'est évidemment Courtois. Il en a trop fait. Même s'il s'arrête demain, en 6 ans, il en a trop fait.
Et même s'il n'a rien fait en équipe nationale, il a quand même trop fait en club.
En fait, il a juste le malheur d'être belge.
Un type beaucoup de temps dans l'équipe de France. Ça sera le Graal.
Ça sera le Graal. Le meilleur gardien de l'histoire de France aussi.
On l'appelle pas face à l'Argentine. Hein,
moi j'aime
avec
bien
nous,
ouais. Les Bernard Lama et Golioris si tu veux. Courtois c'est pas le
après,
même
je
niveau.
Je pense
hein.
Que c'est mon avis, mais même avec Mike Maignan tu perds pas contre l'Argentine.
Et je voulais dire en parlant de remontada pour
Golioris. Ah ben avec Golioris t'as perdu.
Ah, mais quand même Hugo sacré Hugo
ouais, sacré Hugo mais
on va pas lancer ce débat. Moi je suis un gros hater de Golioris
ouais, excusez-moi messieurs on va poursuivre hein. Bah voilà pour la Ligue des Champions en tout cas on verra les matchs retour demain et après demain hein. Soyez avec nous en tout cas nous vous tiendrons au courant. Ligue Europa et conférence hein. Lyon qui arrache le point du match nul face au Celta Vigo après le 8e ou 9e tir de Hendrik.
Merci quand gardien
même,
quand même
hein. Oui le gardien aussi qui fait
grosse boulette
oui, Arconada
une,
ouais.
Une boulette sur le but d'Hendrik. Lille qui s'incline à domicile face à Aston Villa, les carottes sont cuites. Non, eux qui iront au Villa Park, vous pensez qu'ils peuvent aller s'imposer au Villa Park?
C'est possible. C'est... Moi, j'y crois pas trop, mais c'est possible.
Le LOSC d'hier était très bon.
Vu le Aston Villa.
En fait, le LOSC
même pas si
bon.
Première mi-temps, ok. Deuxième mi-temps de moins.
Face à Rennes qui est quand même bien en ce moment.
Ah, mais s'il n'y a pas le deuxième but avec Pardo qui va à 1000 à l'heure, je pense que le match, c'est pas du tout le même.
Et Merlin qui a un tracteur.
Après, Aston Villa, vu leur état de forme, franchement, tout est possible. J'y crois pas trop, mais tout est possible.
Ah, même s'ils perdent ce week-end, pendant la première heure, ils sont pas ridicules contre United. Ça devrait passer quand même contre Lille. Mais après, comme on dit, 1-0.
Lille et United, il y a un écart. Hein, on sait jamais. Pas les mêmes.
Rijeka, qui se sont inclinés face à Strasbourg. Hein, Strasbourg qui sont allés gagner là-bas 2-1 et qui prennent une option assez nette pour le retour.
Ouais, je pense que Strasbourg, ils vont faire le taf. Hein,
à domicile.
Ouais, ils vont faire le taf, je pense.
Voilà pour.
Et Strasbourg, dans cette compétition, ils doivent clairement viser la gagne. Hein. Quand tu regardes le tableau qui reste,
clairement
pour moi, il n'y a pas grand monde.
Clairement
qui peut...
visé, c'est compliqué, mais ouais, ils doivent être ambitieux. Quoi. Oui, ils doivent vouloir aller en
pour
finale.
Pour moi, il
n'y
a pas beaucoup d'équipes qui peuvent les regarder dans les yeux.
Ouais, qui peuvent rivaliser, mais le problème...
Crystal Palace, on a vu ce que ça
ils
passe. Comment ça s'est passé
Crystal Palace,
donc pour moi, Crystal Palace, c'est du 50-50.
Tu te rappelles du match aller?
Oui,
c'est n'importe quoi, il y a des frappes qui vont dans les
poteaux. Même là, tu as vu le match de Crystal Palace.
Oui.
Ils ont galéré contre...
Ils ont fait 0.
Ah oui.
Non, pour moi, c'est du 50-50 contre Crystal Palace, mais ils doivent avoir l'ambition...
Et même contre Athènes aussi, en truc. C'est la même.
De la gagner, parce que là, t'es sur des compétitions où il n'y a plus les reversés. T'as plus les reversés d'Europa League, qui auraient pu faire peur.
On sent dans les affiches.
Tu sens que l'Europa League, elle sera intéressante.
Tu sens qu'il y a trop de monde dans la Ligue des Champions, en fait, parce que ça n'a plus rien à voir avec avant. Mais bref, autre débat, vas-y.
En tout cas, voilà pour les compétitions européennes. Nous allons revenir d'ailleurs avec la PL juste après la pause.
Retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission où on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
De retour dans les locaux de Mon Paris FM, il est 21h47. Si vous venez de nous rejoindre, nous avons parlé de la Ligue des Champions, nous avons parlé aussi de la Ligue 1 et nous allons parler de la première ligue. Liverpool tenu en échec face à Tottenham, 1-0. Le nombre incalculable de points de Liverpool perdus dans les dernières secondes cette saison est énorme. Sans ça, je pense qu'ils seront peut-être même premiers, hein, on ne sait pas. En tout cas, ils ont perdu énormément de points dans ce Money Time. Aston Villa qui ont perdu face à Manchester United. Manchester United qui gagne encore 3-1 contre un concurrent direct et sont seuls maintenant 3e. Manchester City tenu en échec 1-0 face à West Ham. Manchester City ont-ils dit adieu à la Première Ligue en sachant que Arsenal se sont imposés 2-0 face à Everton et compte désormais 9 points d'avance avec un match en plus. Newcastle s'impose 1-0 à Chelsea et enchaîne une victoire de prestige et reviennent à 7 points de la 5e place. Crystal Palace tenu en échec 0-0 face à Leeds, un match très difficile pour Crystal Palace, hein, Leeds qui ont dominé les débats, même qui ont loupé un penalty et qui ont été réduits à 10 depuis la mi-temps. Mais malgré tout ça, Crystal Palace n'ont pas réussi à ouvrir le score. Quelles sont vos impressions, messieurs, sur cette journée de PL?
Je pense qu'elle marque un tournant. Arsenal, ils ont bien galéré. Ils ont marqué quasiment dans les arrêts de jeu. Je crois que c'est 89e le but de Gyökeres. Je pense que s'ils ne les mettent pas, ces buts, je pense que City est vraiment lancé pour les rattraper. Et là, les deux résultats conjugués, on s'en a beaucoup débattu, notamment avec Maxence qui voit Arsenal champion depuis le début de saison.
Il avait dit.
Il a toujours dit, moi j'ai beaucoup douté, j'ai dit oui, après j'ai dit non, après j'ai dit oui, après j'ai dit non, parce qu'on connaît Arsenal. Et je pense que là, quand même, s'ils arrivent à la perdre, là quand même, ça restera dans des summums de la lose. Je vois pas Arsenal paumé maintenant. Et on voit quand même que, même il y a des dynamiques qui se prennent. Là, Manchester qui est quand même 3e, qui bat l'équipe qui devait être son concurrent, on voit quand même une hiérarchie
qui est établie en fait.
Exactement. Et donc on commence à voir, je trouve, on commence plus ou moins à voir la photo finale de cette saison de PL. Et je pense qu'on a eu beaucoup d'enseignements cette journée, même si le niveau de jeu a pas été flamboyant.
Moi, le seul micro-doute que j'aurais pour Arsenal, c'est que City a encore un match en moins pour revenir à 6 et il reste une confrontation directe. S'il n'y avait pas de confrontation directe, je te dirais 6 points, ça ne se rattrape pas. Là, il reste une confrontation où tu te dis un gros City peut revenir à 3 et tu ne sais jamais sur une dernière journée, sur un truc. Mais globalement, j'y crois pas. Et comme
parce qu'après, même ça, ils ont le droit à un match nul. Parce que
bien sûr.
Arsenal a mal abordé les gros matchs cette année.
Mais moi, le seul truc, ce que je dis depuis le début de saison, c'est qu'en fait, Arsenal, je les trouve bon, correct, mais pas exceptionnel. Mais c'est surtout les autres que je trouve pas au niveau, en fait. Et il y a personne pour les concurrencer. Quand tu vois la saison de Liverpool qui est pas bonne, la saison de City qui est pas bonne, et en fait, toutes les autres équipes ont des failles qui sont plus grosses que les failles d'Arsenal. Et Arsenal, malgré ses limites, malgré le manque de créativité devant, malgré la mauvaise saison de Saka, malgré tout ça, ça reste quand même une équipe qui est fiable et qui est tout le temps entre minimum 5 sur 10, entre 5 et 7. Alors que City, tu vas avoir des 9, mais tu vas avoir des 3 et des 4. Et en fait, ça, sur une saison de Première Ligue, c'est beaucoup trop. À mon avis, c'est rédhibitoire.
La constance d'Arsenal, moi je pourrais dire la constance d'Arsenal, mais
on va le dire. Hein,
moi je la vois en mauvais champion. Hein,
c'est un mauvais champion, t'as dit
Arsenal, ouais. Il n'y a pas de mauvais champion. Mais Arsenal vont jouer prochain match face à Leverkusen et vont jouer en FL Cup déjà contre City. Ensuite, en FA Cup, ils iront à Southampton. En PL, en tout cas, ils joueront à domicile face à Bournemouth. Ils iront à Manchester City.
Ah, ils sont éliminés de rien, eux. Ils ont toutes les compétitions.
Ils jouent toutes les quatre compétitions. Ouais.
Manchester Arsenal joueront à domicile face à Newcastle. Après Manchester City, ils joueront face à Newcastle. Ensuite, ils joueront à domicile face à Fulham. Ils joueront à West Ham. Ils joueront à domicile face à Burnley. Et pour la dernière journée, ils iront à Crystal Palace.
Ça devrait le faire. Et puis, pour revenir juste mauvais champion, Arsenal, la moyenne de points, je viens de la calculer, 2,25. Avoir 2,25 points de moyenne en Première Ligue,
c'est un champion normal.
C'est exceptionnel.
C'est un champion normal.
Non, oui, mais c'est pas un mauvais champion. Je veux dire, surtout dans un championnat comme la Première Ligue, tu vois. C'est pas le Bayern, c'est pas le PSG, dans des championnats qui sont plus faibles. Là, c'est un championnat qui reste homogène, le plus riche du monde. 2,25, t'es pas sur un champion à l'arrache.
Bah après, le truc, c'est qu'Arsenal, ils ont récupéré les points qu'ils avaient perdus. Ils avaient enchaîné des matchs nuls il y a une période où
Nottingham
City,
et tout, voilà. Là, bien sûr.
Même Aston Villa, quand ils perdent à la 96e, là, Buendia qui marque.
Excusez-moi, messieurs, mais maintenant, même Manchester City, en vue de ce qu'ils proposent, normalement, ça, ce sont des genres de matchs qu'ils gagnent, qu'on voit face à Nottingham Forest.
Mais pas cette saison.
Où ils ont les occasions en fin de match, et c'est toujours là, normalement, où ça doit faire mouche, et ils se disent, voilà, c'est une cadence d'un champion. Là encore, ils ont. Parce qu'après le temps additionnel, l'arbitre laisse au moins deux minutes
pour les laisser y croire.
Où ils ont vraiment les occasions de quoi finir, et tu vois qu'il manque toujours un pied, une tête, la frappe pas assez forte, il manque toujours un petit truc.
Mais ça, c'est depuis le début. Depuis le début, City, ils ont perdu beaucoup de points comme ça. Avant, City, ce qui faisait leur force, c'était aussi le money time. Toujours, ils marquaient en fin de match, même sur des matchs poussifs. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ça tourne plus pour eux. Ça tourne pour les. Surtout qu'en plus, ils perdent des points contre des équipes qui jouent le maintien ou de deuxième partie de tableau. À chaque fois, ils font des nuls. Les équipes d'en face, ils font pas grand-chose dans le match. Hein. Il leur suffit pas beaucoup, comme Nottingham. à peu près deux trois occasions, ils arrivent à faire 2-2. Ouais, c'est pas possible.
Ils sont déséquilibrés très facilement, je suis d'accord.
Exactement.
Avec toi.
Tu peux pas à chaque fois concéder des matchs nuls contre des équipes qui concèdent aussi peu contre toi, alors que toi, tu as pléthorie d'occasions et que déjà, comment ton buteur peut être en panne aussi longtemps?
Ça fait beaucoup à Lens, c'est inquiétant.
Ça commence à faire beaucoup et dans le jeu, on le voit pas. Donc ça veut dire que tu as un joueur qui pèse devant, mais qu'en fait, n'existe pas du tout. Il n'est pas servi, il ne marque pas. Donc, je ne sais pas si Guardiola devait changer quelque chose pour faire réagir Haaland. Mais là, c'est... De toute façon, Haaland avait arrêté de marquer, ça tournait déjà mal pour eux. Et là, du coup, comme il a eu une panne sèche, ça ne tourne plus du tout. C'est Meignot, il a repris un peu le relais, mais après, à la base, ce n'est pas son job. Ouais. Là, il vient d'arriver, il en surchauffe. Ouais. Et il va pas être comme ça jusqu'à la fin du championnat. Oui.
Excusez-moi, messieurs, mais maintenant, il faut qu'on run vraiment parce qu'il reste très peu de temps. Du coup, Manchester United, eux, qui enchaînent une victoire face à Villa. Manchester United, troisième.
Le travail de Carrick, c'est exceptionnel parce qu'on parle d'une équipe qui a fini 16e en Premier League l'an dernier avec un effectif qui n'a pas beaucoup changé. Donc, son travail, il est très, très, très bon. Quand il les a récupérés, ils devaient être milieu de tableau. Et là, ils vont se qualifier pour avec des champions. Donc, bravo Carrick. J'espère que le club va retrouver une espèce de sérénité, le prolonger pour l'année prochaine, qu'il puisse préparer sa saison, garder les hommes qu'il connaîtra et ceux dont il a envie de se séparer et faire une belle saison prochaine pour retrouver un United au top. Ça serait bien pour le football anglais quand même de trouver un United qui serait contender pour le titre. C'est ce qu'on aimerait bien.
C'est ce qu'on aimerait en tout cas. Voilà. Newcastle qui sont imposés à Chelsea. Hein. Chelsea encore qui ont perdu face à un concurrent direct.
Avec Newcastle, une équipe remaniée et Chelsea qui a reconduit la même équipe que face au Paris Saint-Germain.
Ouais. Et avec deux blessés maintenant. Ouais. Malo Gusto et Rhys James.
Et Wesley
en plus
Fofana
des cadres, c'est des cadres.
Et Wesley Fofana qui est peut-être malade aussi qui manquera. Aussi,
mais après Wesley aussi n'est pas indispensable aussi hein, Wesley en ce moment dans le club
de en fait en défense ils ont beaucoup de joueurs mais aucun qui s'est vraiment montré au niveau donc c'est compliqué de choisir.
Il va sûrement mettre Sarr mais franchement Rossignol il a loupé tous ces changements là.
Voilà pour la PL messieurs. Arsenal hein, qui compte désormais 9 points de plus que Manchester City hein, deuxième et qui compte 7 points de plus il me semble contre United troisième. Quatrième place, les vilains. Ouais. Cinquième place, Liverpool. Oui. Sixième, Chelsea. Et là, ça commence après à se creuser en dessous, en plus bas tableau. Nous allons faire une virgule, une très courte virgule, hein, avant de revenir avec la Liga, le FC Barcelone, qui se sont imposés 5-2 face au FC Séville et qui conservent leur avance sur le Real Madrid. Le FC Barcelone qui s'impose 5-2 face au FC Séville et conserve leur avance sur le Real Madrid de 4 points. FC Barcelone qui sont imposés 5-2 pardon, face au FC Séville. Deux buts de Rafinha.
Triplé
de Rafinha. Ce qui m'a un peu interpellé, bon, très rapide, parce qu'on n'a pas le temps de faire un vrai temps là-dessus que sur ce match-là en tout cas. Mais ça m'a fait pitié un peu. Parce que là, ça m'a semblé en fait la fin d'une ère. Quand j'ai vu deux pénaltys tirés par Rafinha devant Lewandowski, qui n'a pas marqué depuis un certain nombre de matchs, et qui ne marque pas encore ce soir, il n'a pas encore ouvert son but, et qui prennent les deux pénaltys comme ça, sans lui proposer, sans le regarder, ça m'a fait mal. Voilà, ouais, en vue de l'attaquant que tu connais, Robert Lewandowski.
C'est une hiérarchie qui tourne, c'est une page qui se tourne aussi. Je pense que l'histoire Lewandowski, elle va se terminer en fin de saison. Et c'est comme ça. C'est les jeunes au pouvoir, et puis. Et c'est un peu l'histoire du foot aussi, je peux comprendre.
Du foot moderne, parce qu'à l'ancienne, ça, tu le vois jamais.
Oui,
même s'il rentre en tant que remplaçant, s'il y a un pénalty, c'est lui qui le prend. Oui. Tu vois, ça, c'est.
Après, il reste sur un échec sur son dernier pénalty, non?
Oui, Lewandowski. Il avait raté un péno.
Il rate ses... Il a loupé
un péno, mais je pense pas qu'il reste sur un échec.
Ah, c'est le dernier qu'il a tiré, c'était un échec.
Après, c'est possible. Mais on sait tous que Lewandowski, t'en loupe un, mais t'en mets 20.
Oui, mais après, cette saison, on sait très bien qu'il
Yamal
est un peu plus dans le mal.
Yamal l'en a loupé, il en a repris derrière.
Ouais, mais
après,
Yamal, c'est ton bijou.
Et je pense aussi qu'il y a une histoire de garder la confiance pour le vrai tireur. C'est-à-dire qu'un tireur comme Rafinha qui va être amené peut-être à tirer des pénaltys importants, Ligue des Champions, etc.
C'est Yamal qui les prend, c'est juste Yamal n'était pas là, mais j'ai l'impression qu'ils se font un à un.
Yamal ou Rafinha, bah oui.
Ils se font chacun son tour.
C'est l'un ou l'autre.
Chacun son tour jusqu'à quand? Parce qu'il y a un moment où Yamal va se dire il n'y a plus de chacun son tour. Je
suis le véritable leader l'année prochaine.
Non, mais à noter qu'Yamal n'était pas sur le terrain à ce moment-là.
Oui, c'est pour ça que.
À mon avis, quand Yamal est sur le terrain, c'est Yamal.
C'est ce qu'il dit.
Non, oui, c'est ce que je suis en train de dire, mais que des fois même ils font 50-50. Des fois, Yamal même il prend la balle, la donne à Rafinha. Ou Rafinha la prend, la donne à Yamal.
Après, pour l'instant, Pour l'instant, l'entente a l'air bien entre les deux. Hein.
Ouais, mais
même
en principe,
l'histoire Ballon d'Or, machin, ça a pas. Non, après le... ça a pas
un peu.
Leur
je pense que un peu. Je pense en vue de la saison de Rafinha cette année, où il est mais moins bon clairement.
C'est les blessures,
bien sûr.
Ça a tellement
mais en
embêté
dehors,
les blessures.
Oui, ouais. Mais en dehors même des blessures, parce que même on voyait qu'il
est moins bon quand même.
Blessures. Il est moins bon
mais
cette
saison. Pour moi, il a surpris Fabien l'an dernier. Donc pour moi, c'est logique.
Mais je suis d'accord. L'année dernière, c'était pas son vrai niveau. Mais l'année dernière, il était surchauffé.
Après, le truc, c'est que Rafinha, c'est le meilleur tireur. Pour l'instant, des trois.
Oui, bien sûr.
Et après, je pense que Yamal, on lui donne parce que ça doit lui revenir. Même si c'est pas un bon tireur, vu l'apport qu'il a au niveau du club, bah, en fait, c'est comme Olivier Thom. C'est le meilleur joueur qui tire.
Et j'aime puis, on sait aussi ce que tout ça lui a coûté sur la course au Ballon d'Or, etc. Ouais. Le côté.
Les stats.
Il fait pas de stats, il fait pas de stats, il fait pas de stats. Ouais. C'était l'argument de Ah, Yamal, il fait pas de stats.
Et vu qu'il est dans une période où il fait que marquer.
Et tu sais que tu lui donnes 10 pénalties dans la saison, bah, il va en mettre au moins 7-8. Ouais. Et ça lui fait ça en plus. Enfin, c'est les courses au Pichichi, c'est tout ça.
Bien sûr, et on a du mal aussi à voir les joueurs vieillir, mais Lewandowski, il a 39 ans, faut l'accepter. On a toujours l'impression. Comme
il est plus jeune.
Il était si fort à 35 ans qu'on dit qu'il va jamais vieillir, mais s'il lui aussi vieillit. Comme ça a été dit, il rate des pénalties, il rate des occasions qu'il ratait pas avant. Et c'est pour ça qu'en fait, il se prépare à partir doucement.
Et j'ai bien hâte de voir sur qui le Barça va jeter son dévolu en neuf, s'ils en prennent un. Mais pour moi, c'est intéressant de savoir vers qui ils vont se tourner. Parce que quand tu as deux joueurs si forts qui jouent sur les côtés, il faut un neuf qui soit un petit peu altruiste, un petit peu intelligent et pas forcément que obnubilé par le but.
Donc, un neuf qui travaille pour les autres.
Un neuf et demi.
Pourquoi pas, ce profil-là, ouais. Mais en tout cas, affaire à suivre. Ils ont évité le scandale Julian Gutiérrez, c'est déjà bien.
Julian Alvarez, pour moi, ça aurait été un neuf.
Ouais, mais il est trop cher pour Alvarez.
Ouais, c'est cher.
Moi.
Pour le Barça, ah oui, je blesse la crise du côté des rivales, donc c'est normal.
En plus.
Messieurs, voilà en tout cas le Real Madrid qui sont imposés 4-1 avec un but de Elche. Hein. On a pu voir Bombasso, Colasso,
Arda Güler.
Il y en a eu plusieurs, mais de Arda Güler de plus de 68 mètres, messieurs. Arda Güler qui a tout simplement marqué un but très très beau. Valverde aussi a marqué un joli but. Et Rudiger aussi a marqué un très beau but. Le quatrième,
c'est Hussein. C'est un travail de Manuel Angel.
Hussein,
c'est un travail de Manuel Angel en fait.
Qu'est-ce que t'en as pensé très rapidement, Cheikh?
Ouais, je crois que regain de confiance, tous les réussis, des joueurs vraiment qui penchaient il y a quelques semaines, voilà, qui arrivent vraiment à tenter des choses. Donc, je crois que je peux être que heureux pour cette équipe et on espère que ça va pouvoir perdurer pour qu'ils puissent donner encore du plaisir. Et je crois que la Ligue est relancée. Hein. On va attendre jusqu'à la fin de saison, même si le Barça a une légère avance. Mais à tout moment,
il y a quand même une confrontation entre les deux.
Donc, au Classico, avec ce Real Madrid en regain de confiance. Est-ce que ça va promettre et ce Barça vraiment qui n'est pas totalement si fort que ça, mais qui a des individualités vraiment qui peuvent changer le coup des matchs. Parce qu'on a vu que même si le dernier classico.
L'individualité de l'arbitrage, c'est.
Oui, mais comment.
Après, quand on est supporter du Real, les gars, c'est quand même limite celle-là.
Mais on ne peut pas vraiment.
Les deux, ils se renvoient la balle alors que c'est eux qui.
Je vois même avec Spider-Man.
Les deux clubs les plus contestables au monde.
Étant consultant.
C'est les deux plus grands clubs aussi.
Étant consultant, on ne peut pas parler de l'arbitrage, on se doit de parler que parce que l'arbitrage c'est un fait de jeu, les arbitres ils sont humains donc ils sont pas parfaits,
bien
on se doit
bien
de
bien
parler
bien
que des acteurs.
Moi j'ai un truc à dire par rapport à ça, notamment il y a eu beaucoup de critiques d'arbitrage pendant la CAN par exemple, on a dit arbitrage à l'africaine etc. Quand tu vois l'arbitrage notamment en Serie A et en Liga,
la Liga je pense que c'est la pire.
La Liga, je pense, c'est la pire. Sauf que Serie A, il y a eu des dingueries je pense encore plus. Tu vois, globalement la Liga, c'est pire.
Mais en Liga, ça date pas de maintenant.
Même le but que prenne l'Inter ce week-end, est-ce que
en Liga, ça date pas de maintenant. Parce que
l'Atalanta,
messieurs, quand vous parlez tous en même temps, on comprend rien du tout. Donc s'il vous plaît, quand il y a quelqu'un qui parle, essayez d'attendre qu'il termine juste pour que vous repreniez derrière.
Donc je disais en Liga, vraiment ça date pas de maintenant, depuis l'époque Tebas et tout ça. Il y a eu tellement de, comme on dit, tellement de faits, de litiges, le nom du Barça a été cité avec la fête Negreira, il y a eu tellement de choses où au moment où le Barça dominait, c'est aussi très culturel,
c'est-à-dire que dans les débriefs en Espagne, t'as une demi-heure, trois quarts d'heure
sur l'arbitrage,
qui est considéré que sur l'arbitrage. Avant de parler du foot, qui a été bon, qui a été pas bon, c'est l'arbitre, il a fait quoi à la 12e, il a mis un jaune là, à la 13e, il a pas mis le jaune, et ça c'est très Espagne-Portugal, c'est très culturel où dans les journaux, t'as des articles sur la performance de l'arbitre avant de parler du gardien, de l'attaquant, du 6. Et donc ça, c'est aussi ça qui fait l'effet zoom, je pense, et d'avoir des clubs comme le Real et le Barça qui ont des relais médiatiques de fou.
Ça doit être difficile d'arbitrer là-bas, en tout cas. On va poursuivre, messieurs. Donc le Real Madrid reste au contact du FC Barcelone. Athletic Bilbao s'incline 3-0 face à Gérone. Athletic Bilbao, ça va pas du tout de ce côté-là. Betis Séville tenu en échec 1-0 face au Celta Vigo. Atlético de Madrid qui sont imposés face à Retafe 1-0.
Magnifique.
Oui, on a vu aussi un mauvais geste côté Retafe sur Sorloth. Voilà. Et la Real Sociedad qui s'impose 3-1 face à Osasuna. Villarreal qui ont arraché le point du match nul face à l'Aves. Un très beau but de Nicolas Pepe.
Oui, à la 95e, là, il enroule du gauche, très très
beau. Voilà. Ce qui fait que le Barça, son seul leader, avec...
Attendez, je vais vous dire ça. Avec 70 points.
Avec 70
points. Et le Real,
points,
66 merci. Derrière.
66, le Real derrière. Et l'Atlético de Madrid, 57, qui compte 2 points de plus que Villarreal, qui ont 55 points. Betis Séville, 44 points. Celta Vigo, 41. Real Sociedad, 38. Et Espanyol Barcelone, 37. Voilà. Atlético Bilbao qui ont 35 points, qui commencent un peu à s'éloigner de cette zone. Bon, ils sont à 3 points après du 7e, mais attention, voilà quoi.
Et on peut se demander comment le Real va gérer le retour de Mbappé quand même. Parce que là, t'as une équipe qui tourne, qui fonctionne bien, qui est sur une bonne lancée.
Les joueurs comme ça, t'es obligé de laisser.
Mais bien sûr, mais évidemment que ça va jouer.
Dans le jeu,
à quoi va ressembler l'équipe. Tu vois, c'est ça ma question.
On sait déjà.
Évidemment qu'il va le mettre titulaire. Évidemment,
en Ligue des Champions, sur un gros match, il peut tellement tout casser qu'après la dynamique.
Surtout avec la défense de City, il peut en mettre 2 ou 3.
Et là, surtout que City vont venir attaquer, du coup, il y aura de l'espace derrière.
Après, est-ce que c'est forcément un match pour revenir en tant que titulaire?
Non.
Moi, je suis pas trop d'avis. Je crois que voilà, peut-être en quart.
Check, excuse-moi, mais voilà, là, il faut qu'on clôture le débat. Est-ce que tu peux nous lancer le quiz, s'il te plaît, Jason?
Je suis sur 2 victoires consécutives, pour info, au quiz.
Oh, ok, bah là, de toute façon, là, il y aura 3 questions.
J'étais pas là la semaine dernière.
Il y aura 3 questions, monsieur, c'est parti. Et tu l'as pas gagné, check, la semaine dernière.
Non, là, je suis pas dans le débat.
Quel est le premier joueur à avoir coûté plus de 100 millions d'euros
au football?
Paul Pogba.
Gareth Bale, oui, Maxence.
Il est pas un tout petit peu en
sélection. Non, c'est Gareth Bale.
Non, c'est Gareth Bale. Après Pogba.
101, oui, c'était Gareth Bale. Quel joueur a mis le triplé le plus rapide en Ligue des Champions avec le Real Madrid?
Le plus rapide.
Ronaldo.
Non.
Valverde.
Non, pas Valverde. Raúl.
Benzema.
Higuain.
Raúl. Morientes.
Ah, les gars, c'est pas Cristiano? Non, c'est pas Cristiano Ronaldo.
Karim Benzema.
R9.
Je l'ai dit.
Rodrigo.
Non, pas Rodrigo.
Non, messieurs.
Le triplé le plus rapide avec le Real de Madrid. Non.
T'as l'air de dire ça comme si c'était évident. Genre,
on l'a cité quand même, mais. Ronaldo R9
Non, plusieurs fois déjà.
Cristiano Ronaldo l'avait fait, mais il est deuxième. Il l'avait fait en 11 minutes.
Ah, c'est ça que j'avais en tête, moi.
Raúl, ça a été dit, Raúl?
Ouais, ça a été non, dit. J'ai dit Raúl Morientes. On n'a même pas dit Raoul, Figo.
On a dit Higuain, on a dit Bale. Okay.
Vous voulez que je vous le donne? Il y a trois questions, messieurs.
Non.
Alors, donnez-le, parce que là, on a dépassé le temps.
Je veux dire une période.
Vous êtes des regards scarabées. Mbappé. Non. Kylian Mbappé, oui,
c'est cette année.
2-0 pour Maxence, c'est cette année face à Olympiakos en 7 minutes.
Mais c'est des faux matchs, ça, il faut
le faire. Non, face à Olympiakos.
Ah, c'est Olympiakos.
C'est Olympiakos.
Parce que Kairat, il en met 4 aussi.
Oui, mais ça, c'était face à Olympiakos en 7 minutes.
J'ai déjà gagné.
Ça fait 2-0.
Qu'est-ce qu'il est beau, Maxence.
Voilà, et on va faire la dernière question. Finale de Coupe du Monde 2018, qui a marqué le premier but?
Griezmann.
Non, Varane.
Griezmann.
Non.
C'est sur le coup franc.
Le coup franc, ouais.
Coup franc de Griezmann, c'est d'un. C'est
Varane,
c'est. Non, Vidal,
c'est. Mandzukic,
c'est. Mandzukic. Ouais. Ah, c'est Mandzukic. Ah, non, mais si tu me dis Varane, c'est pas Varane en CSC. Et... Varane en CSC, ça fait 1-0 pour Croatie. Mandzukic qui met son CSC, ça fait 1-0 pour la France. C'était 1-0 pour la France, Mandzukic CSC. Donc ça fait 3-0 tout simplement pour Maxence. Voilà, messieurs, merci en tout cas pour ces analyses. Hein. On espère se revoir la semaine prochaine pour tous ces matchs-là. Merci à Lucas, merci à Jason, merci à Maxence, merci. Merci à Sheik, s'il te plaît, Sheik. Merci à Sheik. Et merci à Jason, à la technique. Hein. Et merci à vous, nos chers auditeurs et auditrices. Et on se dit à la semaine prochaine pour du football, encore du football, toujours du football. Bonne soirée à vous.